Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
C'était mieux avant, on me le dit souvent. Mes souvenirs sont doux, je les chéris tant. Mais l'avenir aussi est bien trop tentant. Faut que tout me réussisse.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est comment? Wafa, aujourd'hui, c'est comment la santé mentale?
Une thématique lourde.
Une thématique lourde de conséquences.
C'est ce que tu dirais, toi?
Non, vraiment. Bonjour à tous, auditeurs. On est vraiment désolé, mais là, on va parler d'un thème qui est tellement...
Qui nous touche tellement,
santé mentale. C'est le thème, en fait. Et là, on est sur notre format, donc le deuxième format. Aujourd'hui, c'est comment?
C'est hors-série.
Donc, un hors-série. Donc vous êtes bien sûr Mon Paris FM, merci de nous écouter. Et ce que je vais vous demander, moi particulièrement pour cette émission, c'est d'être attentif parce qu'on parle d'un sujet qui voilà, nous tient à peu près tous à cœur, tous les gens qui sont sur ce plateau, on peut le dire, c'est quelque chose qui nous touche, qui est aussi très moderne, très important. On est aujourd'hui dans une phase de développement, on est dans cette... nous vivons en fait, en tout cas,
la construction d'une nouvelle
construction, exactement. Donc, Wafa, je te laisse.
Je vais prendre la main, t'inquiète.
Introduire, s'il te plaît. Moi, mes émotions me dépassent.
Il n'y a pas de souci, vous êtes bien. Donc, sur Mon Paris FM, toujours sur l'émission donc, animée par Noé à mes côtés et moi-même, Wafa.
Yes.
Donc, on est sur C'était mieux avant, mais aujourd'hui, grosse exception, ça va être un hors-série. Et la question, ça va être aujourd'hui, c'est comment? Parce qu'avec Noé, en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment parler de sujets profonds tels que la santé mentale.
Exactement.
Mais c'était complètement dérisoire de dire
c'était mieux avant. Ça n'a pas de sens.
Donc, on s'est dit autant l'inclure donc, dans notre nouveau format de hors-série. Là, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Notamment parce qu'il commence à faire gris.
Exactement.
Il commence à faire pas très très beau.
Exactement.
La dépression hivernale peut guetter aussi, il faut faire attention.
Totalement.
Et aussi parce que donc, le 5 décembre, c'est la journée de la santé mentale. Et je ne savais pas qu'il y avait une journée pour ça, justement.
Heureusement. Bah écoute, je l'ai appris le jour où on a commencé à faire notre émission.
Après, c'est bien, ça veut dire que justement, il y a une nouvelle sensibilité autour de tout
Exactement. On est justement dans cette ère en fait, de développement personnel, donc je trouve que c'est très important. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, en tout cas, on va en parler. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là.
J'aime bien. Alors, je vais commencer par vous représenter nos chroniqueurs et je vais commencer par me tourner vers toi, Camélia. Bonjour, Camélia. Yeah.
Bonjour.
Comment est-ce que ça va, rayon de soleil?
Ben, ça va. Ça va.
Ok.
C'est une thématique qui tient à cœur?
Ouais, particulièrement. C'est pour ça que c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui.
Ça nous fait très plaisir en plus que tu sois avec nous. Comment est-ce que ça va, Camille?
Bah écoute, hein, ça va, et toi?
Bah ça va très très bien. Ouais. Prête pour la thématique?
On va bien psychologiquement, tout va bien.
Ah, c'est l'essentiel, c'est ça que je voulais.
C'est important, il faut venir dans ces conditions-là pour cette émission, je pense.
Exactement. De toute façon, ici, c'est joie.
Okay.
Oh, c'est beau ça, merci beaucoup Camille. Bonjour Benoît, comment est-ce que ça va Benoît?
Hello guys, comment vous allez? Moi ça va bien en tout cas.
Ça va bien, psychologiquement comme Camille elle a dit ça va?
Bah franchement, alhamdoulilah, comme on dit.
Gloire à Dieu toujours.
Écoute, très bien, c'est important.
Toi Noé, comment est-ce que ça va?
Très honnêtement, on parle de santé mentale, donc je suis très content, mais quelque part, du coup, quand on parle de santé mentale, on pense à ce qu'on va dire et finalement, on va parler quand même de choses assez dures,
parfois
par moments tristes, assez sérieuses, donc quelque part, je suis un peu serré, un peu tendax, je vous cache pas.
Après, t'es santé mentale, c'est pas forcément que du négatif, hein.
Totalement.
Il faut le rappeler.
Totalement, mais bon.
Non, il y a du positif et du négatif comme dans tout.
Mais bon.
Non, en fait, je pense que pour cette émission, moi, j'ai le positif et toi, tu as le négatif.
Mais bon.
Impressionnant.
Alors, avant de commencer, donc le récap histoire que nous fait habituellement Camille
bien
je pense
sûr.
Qu'on va commencer peut-être par un petit disclaimer parce que donc on a beaucoup de joie de vivre sur le plateau, mais il faut rappeler que justement. certaines maladies, certaines choses peuvent être très, très graves et on doit vraiment les prendre au sérieux.
Totalement.
Donc c'est un gros disclaimer parce qu'on va aborder beaucoup, beaucoup de thématiques qui peuvent peut-être heurter la sensibilité de tout à chacun.
Totalement.
Si vous ne vous sentez pas joie, n'hésitez pas à ne pas écouter ce podcast. Vous reviendrez quand ça ira mieux. Je pense que Camille, je vais te laisser commencer par les numéros de secours.
Bien sûr.
Avant de nous faire ton petit récap.
Prenez
bien soin de vous, chers auditeurs, chères auditrices.
Totalement.
Et j'espère que ça va pouvoir vous aider aussi à peut-être aller mieux et
totalement
à trouver des solutions.
Exactement.
Camille, on t'écoute.
Totalement.
Du coup, on va commencer avec les numéros de sécurité et de prévention. Donc, pour toute urgence médicale, y compris les urgences psychologiques, vous pouvez appeler le SAMU au 15.
Ça, je savais pas, tu vois, que le SAMU aussi, on pouvait l'appeler pour ça.
Mais bien sûr.
Après, on va parler tout ce qui est pensée suicidaire. Nous avons deux numéros. Le numéro national de prévention du suicide, qui est le 3114. C'est une ligne qui est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour les personnes en détresse psychologique ayant des pensées suicidaires.
OK.
Et après, on a SOS Suicide au 01 45 39 40 00. Pour les personnes ayant des pensées suicidaires également.
Ok.
Après, on a trois numéros donc pour des personnes en difficulté psychologique.
Mm-hmm.
On a le Fil Jeunesse, Fil Santé Jeune, excusez-moi, au 0800 235 236. C'est anonyme et gratuit et c'est destiné aux jeunes entre 12 et 25 ans.
Ok.
On a Écoute Psy au 01 42 96 26 26. Et France Victime au 116 006, qui est une ligne d'aide pour toutes les victimes de violences, y compris violences psychologiques.
Très bien.
Maintenant que tout ça a été rappelé, est-ce que tu peux nous faire un petit point historique sur la santé mentale ?
Bien sûr. Et comme d'habitude, on parle d'abord de définition. Donc la santé mentale désigne un état de bien-être dans lequel une personne réalise son potentiel, peut faire face aux tensions normales de la vie, travaille de manière productive et contribue à la communauté. Elle inclut des aspects émotionnels, psychologiques et sociaux qui influencent la manière dont une personne pense, ressent et agit. Donc une bonne santé mentale, elle permet à l'individu de maintenir des relations harmonieuses et de gérer son stress.
Ok.
Toutefois, quand il y a souffrance mentale, cela peut prendre la forme de différents troubles, comme la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, les psychoses ou bien d'autres. La santé mentale n'est pas une condition fixe et elle peut fluctuer tout dépendant des facteurs de la vie, du travail,
l'environnement, tout simplement.
Et des gènes, ça peut être génétique également.
Et oui.
Ok.
Et oui, oui, oui. Et oui.
Voilà.
Donc la santé mentale, d'un point de vue historique, on a quoi d'autre ?
Alors les dates importantes. Il y a 1845. C'est l'ouverture de l'asile de Charenton par Philippe Pinel.
Ok.
Donc c'est un événement fondateur pour la psychiatrie moderne.
Ok. Okay.
Ensuite, on passe à 1854, la création du premier hôpital psychiatrique public en France.
Ok.
Suite à l'augmentation des maladies mentales, il y a une grosse prise de conscience et du coup, hôpital psychiatrique.
Ok.
1946, on a la création de la sécurité sociale et qui prend en charge du coup les soins psychiatriques.
Okay. Dans le cadre révolutionnaire.
Exactement, dans le cadre général de santé. On a 1981 avec la loi Pinel.
Okay.
Qui réforme les soins psychiatriques et qui renforce les droits des patients. Donc elle introduit le concept de soins psychiatriques sous contrainte, tout en encadrant les conditions et leur application.
Okay.
1990, on a la France qui ratifie la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, incluant du coup aussi les handicaps mentaux. Ouais. 2007, on a la loi sur les soins psychiatriques qui fait évoluer du coup également la prise en charge et la prise de conscience sur l'importance de la santé mentale.
Okay.
C'est très récent, en fait.
C'est ça. On est encore plus récent. On a 2011 avec le lancement du Plan national de santé mentale visant à améliorer la prise en charge des maladies mentales, à renforcer la prévention et à lutter contre les stigmatisations des troubles psychiques.
Ok.
Et enfin, le dernier. Alors, la dernière date que j'ai, c'est très, très, très récent.
Ouais.
2019.
Ok.
Publication du plan santé mentale par le gouvernement français afin de réduire les inégalités en matière de santé mentale et de proposer les solutions pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies psychiques. Et j'aurais même rajouté ce que je n'ai pas noté depuis le Covid, mais Wafa, je crois que tu vas en parler aussi.
Non, tu peux le dire.
Depuis le Covid, on a une forte prise de conscience sur la santé mentale, justement, due à l'enfermement, aux violences que certaines personnes ont pu subir durant cet enfermement. Il y a eu, si je me trompe, dis-moi, il me semble 4 séances de...
oui, c'est ça.
Consultations, oui, qui sont remboursées par la Sécu, parce que c'est pas toujours remboursé.
C'est ça.
Justement, pour les personnes qui sont en souffrance psychiatrique et psychologique, parce que ce sont deux notions différentes également. Donc, si vous avez besoin,
n'hésitez pas
à consulter.
Exactement, exactement. Ça pose un cadre, là. Là, je vous sens tous très, très calmes.
Oui.
Ça va ?
Ça va.
Je pense que ça va ? Ouais, c'est l'essentiel.
C'est dommage, on aurait voulu faire des blagues. Non, c'est vrai, que c'est un gros sujet et qui nous tient à cœur. En même temps, on se dit comment en parler ? Comment bien en parler ?
C'est ça.
Donc, je pense que c'est aussi la raison de ce calme collectif. Mais vous inquiétez pas, nous sommes avec vous.
Bien sûr, bien sûr.
C'est important, c'est important. Alors, ce que j'ai envie de proposer, exceptionnellement, c'est qu'on ne va pas commencer par nos animateurs, mais on va se tourner directement vers Camélia.
Oui.
Pour nous dire justement aujourd'hui, c'est comment la santé mentale. Je t'écoute.
Oui, ben merci. merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis très très contente d'être ici. Moi, comme je vous ai dit au tout début, c'est un sujet qui me tient très très à cœur. Parce qu'en fait, la santé mentale, ça a un peu rythmé ma vie. Alors, ça va pas être hyper fun ce que je vais dire, je suis désolée.
C'est comme ça.
Mais je pense que ce que moi j'ai pu vivre. D'autres se reconnaîtront. Ouais. Voilà, moi je suis issue d'une famille, du coup, bah, comme tout le monde. voilà, et puis moi, ma maman est atteinte de troubles psychiques, donc atteinte de schizophrénie. Donc c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui a rythmé un petit peu ma vie, on va dire. Parce que ben, pour les gens qui ont dans leur famille des gens qui ont ces troubles-là, ça peut être très compliqué. Voilà, moi-même, la santé mentale, ça n'a pas toujours été fun. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Je pense que tout le monde, même vous, auditeurs, vous avez eu des hauts, des bas. C'est
ça,
normal.
C'est la vie.
C'est la vie, exactement. Et on a... Merci pour le mouchoir, Wafa. on a tous... voilà, et moi, personnellement, j'ai commencé à avoir des soucis de santé mentale, entre guillemets, à l'adolescence. Je pense que ça commence beaucoup pour beaucoup d'entre nous à ce stade-là, parce qu'en fait, c'est le stade du développement.
Développement, réflexion.
Forcément, bah, on regarde nos parents. Ouais. Enfin voilà, il y a tous ces questionnements-là. Et moi, c'est vraiment arrivé à l'âge, ben, même avant l'adolescence, en vrai. J'ai eu la chance quand même d'être suivie voilà, par une psychologue tout au long de... ma vie. Et je trouve que c'est important de se faire suivre parce que voilà, je sais qu'il y a quelques années, c'était très tabou de dire qu'on allait voir un psychologue.
Totalement.
Mais bah, moi, je suis très fière aujourd'hui parce que bah, déjà, j'ai consulté.
Ouais.
Je consulte encore. Et puis autour de moi, j'ai aussi des gens merveilleux qui consultent aussi.
Ouais.
Donc du coup, je pense que dans les relations sociales, ça aide énormément.
Oui.
Parce que je pense que tous... Je dis bien tous, sans exception, on a tous des traumas, plus ou moins grands, à différentes échelles.
Mmh.
Et bah forcément, moi, je vais raconter mes traumatismes à ma copine. Mmh. Elle va me parler d'une certaine manière, mais elle ne va pas me donner trop de solutions, même si elle veut. Elle va compatir. Mmh. Mais la compréhension, c'est vraiment avec un professionnel. Mmh. Donc moi, je vous invite, si vous avez le moindre souci, voilà, il n'y a pas de tabou. C'est important de prendre soin de sa santé mentale. Parce que si on n'en prend pas soin, ça peut avoir des répercussions pas très très drôles. Voilà, c'était la minute prévention.
Ouais, c'est important.
Faut,
voilà. Du coup, moi, je voulais parler un peu de chiffres.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est important. Moi, en parlant un petit peu autour de moi, je me rends compte déjà que la santé mentale, aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Par exemple, moi, je peux en parler très facilement à mes amis. Il n'y a pas de tabou sur ça. Là où, il y a quelques années, on avait du mal.
On avait du mal, totalement.
Parce qu'en fait, il y avait cette espèce de... Dès qu'on a un trouble un petit peu, on est fou.
Exactement.
On est fou.
Je suis d'accord avec toi.
Et ça a été beaucoup ça dans les années 2000, même avant. Là, maintenant, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu, quand j'étais plus jeune, ce souci de « Est-ce que je suis normale ?» Est-ce que ça va aller ? Et surtout que bah, moi, j'avais des antécédents dans le sens où bah, quand on a une maman qui a des troubles des troubles psychiques, forcément, on se dit « Ah ben, moi, ça va être la même chose. » Alors bon, moi, ça a été une peur pendant très très longtemps d'être pareil, on va dire. Bon, là, ça va, je ne suis pas trop ravagée encore.
Pas du tout, même, je peux le confirmer, elle n'est pas du tout ravagée.
Ça va, j'ai vu ma psy la semaine dernière, elle m'a dit « Ça va. Okay. » En vrai, ça va.
Bah, si elle a dit que ça va, c'est que ça
elle
va.
Elle a dit « Ça va. »
Ça va alors. Ça va.
Voilà, donc bon. Du coup, pour en revenir aux chiffres, parce que bah, je pense que c'est ça qui est important aussi. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une personne sur 8 dans le monde souffre d'un trouble mental. Quand on parle de trouble mental, ça peut être des troubles courants comme la dépression et l'anxiété. Et la dépression et l'anxiété, ça touche énormément de gens.
Bien sûr.
Et ça touche plus particulièrement les jeunes en Europe. Environ 20% des adolescents souffrent de troubles de santé mentale et les taux d'anxiété ne cessent d'augmenter. Ça, c'est très important de le rappeler parce qu'on vit dans une société où y a énormément de choses, énormément de stress. Moi, je le vois au quotidien. Déjà, je suis stressée comme personne. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose.
Je crois que c'est Paris. Hein.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Paris. Non, même avant Paris. Je
ah ouais ?
Je pense que c'est la vie en général.
Ouais, la vie d'adulte.
Oui.
Mais même la vie avant d'être adulte, voilà, c'est stressant. Et j'ai pu remarquer, moi, que les gens étaient de plus en plus stressés. De plus en plus sujet à de l'anxiété et je pense que c'est important de le soulever parce que bah, c'est pas normal.
Clairement.
C'est pas normal, mais c'est devenu banal en fait. Donc voilà, depuis le Covid, du coup, on a eu bah, forcément le Covid, ça a créé des choses bien, des choses un petit peu moins bien. Forcément, l'enfermement, ça a joué sur l'état d'esprit, la santé mentale des gens. Moi-même, hein, le Covid, je me disais heureusement que je travaille, parce que bon, j'ai aidé pendant le Covid.
Je suis contente. Tu bossais dans quoi ?
Je bossais au Franprix. Donc, du coup,
c'est grâce à toi qu'on pouvait aller acheter notre nourriture, en fait.
Ouais.
Merci, Camille.
Ouais, je bossais au Franprix, faut lui dire.
Merci, j'ai jamais. Voilà.
Merci. Mais du coup, si j'avais pas travaillé, je pense, pendant ce moment-là, je serais devenue zinzin. Parce que bah, moi, je pense à tous les étudiants qui sont dans des petits
ça,
appartements.
Mais terrible.
Terrible.
Mais terrible. Loin de leur famille, etc.
Ou même des gens qui ont été, bah, je sais pas, enfermés avec leur famille et puis les relations familiales sont pas forcément bonnes. Ouais. Donc il y a tout ça. Et donc depuis le Covid, il y a quand même pas mal de cas de dépression, d'anxiété et ça a augmenté de 26 et 28%. Je sais pas si vous imaginez. Ouais. C'est
énorme.
Il y a eu un post-Covid. Hein. Le post-Covid, il est réel. Hein.
Ouais. C'est réel. Donc oui, effectivement. Donc j'ai fini la partie chiffres parce que sinon ça fait trop de chiffres. Ouais. Mais en gros, voilà, moi c'était important de poser des chiffres parce que bah, je vois ce qui se passe autour de moi, mais je voulais quand même quelque chose de voilà, voir du concret. Mmh. Effectivement, dans le concret, c'est que bon, il y a beaucoup plus d'anxiété qu'avant, il y a beaucoup plus de cas de dépression qu'avant. Mmh. Après, ce que je remarque aussi également, c'est que c'est beaucoup mieux traité.
La prise en charge.
Avant, bah, on vous donnait des antidépresseurs sans vraiment diagnostiquer, ou alors on vous mettait en hôpital psychiatrique, alors qu'en fait, bah, c'était pas si grave que ça. Et là, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est un constat. Depuis quelques années, c'est beaucoup plus pris en charge, c'est plus pris au sérieux aussi.
Ouais.
Parce que avant, en fait, je pense que c'était un sujet qui était pris à la légère, parce que bah, peut-être que ça a touché moins de gens. Donc forcément, quand ça touche moins de gens, c'est bah, laissé un petit peu de côté par la société, le gouvernement. Là, maintenant, où il y a eu le Covid, je pense qu'il y a eu un élan de « Ah oui, effectivement, il y a un problème, il faut résoudre ce problème ». Donc justement, c'est pour ça que bah, le gouvernement a mis en place bah, plusieurs choses, notamment les séances de psy qui sont remboursées par la Sécurité sociale, qui sont maintenant à 12 au lieu de 9 avant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Si je peux juste me permettre, par rapport aux séances de psy remboursées, c'est pas tous les psys qui l'acceptent, malheureusement. Donc c'est toujours un peu limité et c'est aussi contraignant pour les psychologues qui l'acceptent. Donc c'est à la fois un dispositif qui est intéressant, mais rapidement, on se trouve limité, malheureusement.
Oui, exactement. Et puis, oui, les places sont chères aussi en tant que patient, et effectivement. Mais du coup, oui, pour en revenir un petit peu à mon histoire personnelle.
Dis-nous tout.
Ouais, je me mets à nu aujourd'hui.
Allez. On est entre nous.
Voilà, moi, c'est la santé mentale, ça a rythmé un petit peu ma vie. J'ai eu une adolescence un petit peu compliquée. Donc forcément, j'ai eu bah, des événements dans la vie qui ont fait que bah, des fois, c'était plus compliqué que d'autres. Mmh. Et donc, voilà, malheureusement, j'ai eu des pensées un petit peu... voilà,
très sombres.
Très sombres. J'ai eu la chance d'être aidée à ce moment-là. Donc mmh. si vous avez ce genre de choses, vraiment, n'hésitez pas à en parler. C'est hyper important. Parce que la santé mentale, on a tendance à beaucoup la négliger. Mmh. Moi, la première, hein, moi, j'étais du genre à dire « Non, mais ça va, mais en vrai, il y a pire. » Et je pense qu'on est beaucoup,
ouais.
dans ma génération, à nous dire « Mais les gars, c'est bon, il y a pire. »
Je vais rebondir sur ça, mais il y a même pire, en fait. Il y a vraiment aussi, moi, je pense à mes parents qui étaient vraiment dans le truc de hey, « nous, on a vécu ça. » Mmh. Toi, t'es ici,
c'est rien ce que tu vis.
Ouais, c'est difficile, ça. Mais justement, en parlant de ça, c'est vrai que j'entends beaucoup autour de moi des gens qui ont des parents qui ont vécu, par exemple, l'immigration, qui ont vécu d'autres traumatismes
Exactement.
Et qui ont tendance à minimiser effectivement Exactement. Ce que les enfants vivent parce que je sais pas en fait.
Parce qu'en fait, on a cette volonté de comparer la douleur alors que chaque douleur est unique.
Exactement.
Exactement.
Voilà. Tu peux pas mieux le dire que ça en fait. Merci.
Mais c'est les traumas qu'il faut bien parler.
Mais oui, mais.
Faut rire, mais ouais, t'as raison.
Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on a, on a tendance à minimiser. Et moi-même, étant plus jeune, je me disais, ah ben ça va, il y a pire que moi, j'ai un toit, je mange. Donc ça va, ouais. en vrai ça va. Mmh. Sauf que le « oh ça va, ça va, ça va » avec les années et puis les traumas qui s'accumulent, bah, à un moment donné ça va plus.
C'est ça.
Et donc moi, il y a juste après le Covid, je crois que c'était en 2022, j'ai eu un gros craquage.
Ouais. Okay.
C'est-à-dire que tous les traumatismes, ils ont dit « bonjour, on est là, hein.
Et on est là et on va rester.
Exactement. Et puis en fait... ben, ça a été très dur, très très dur. J'ai eu une période très très compliquée de dépression. Mais comme je suis quelqu'un qui me dit « mais ça va, allez, il faut rebondir ». Je suis quelqu'un, j'ai toujours eu des objectifs. Je pense que c'est ça qui m'a...
Maintenu
la tête en dehors de l'eau, même si bon, j'étais et je suis toujours très dure avec moi-même. Mmh. Et c'est ma force mais aussi ma faiblesse dans le sens où j'ai des objectifs... J'arrive toujours à faire des choses où les gens ils disent waouh, incroyable! Et mais à un moment donné, il y a forcément le revers de la médaille qui fait que bah, santé mentale, voilà. Moi, je suis quelqu'un dans mon entourage très souriant, très à remonter le moral des troupes.
Très solaire.
Ouais.
Très solaire. Voilà, s'il y a un problème, voilà, je suis là. Si, voilà. Mais moi-même, si j'ai un souci, j'ai du mal à le dire. J'ai beaucoup de mal parce que je pense que. Et je pense que je ne suis pas la seule. J'ai tendance à me dire, non, mais je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Je n'ai pas envie d'embêter avec mes problèmes. Parce qu'en fait, plus jeune, c'est un schéma comme ça dans lequel j'ai grandi. Dans le sens où faut pas se plaindre, il ne
faut pas... Faut pas embêter, faut pas déranger.
Faut pas déranger, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ce schéma-là. Je pense que notre santé mentale est aussi conditionnée par la façon dont on a grandi et dont on a été éduqué et dont nos différentes interactions dans la vie ont été prises. Par exemple, je ne sais pas si demain, je ne sais pas, mon hamster, il meurt. Quand j'ai 8 ans, forcément, c'est un petit trauma quand même.
Ouais.
Mais si les adultes autour de moi banalisent ça, ça va faire un traumatisme. Et donc, c'est important, nous, en tant que... nouvelle génération, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a essayé d'inculquer à nos parents, je pense. On a déjà essayé de dire à nos parents ou...
De déconstruire,
de dire mais il y a un dialogue de sourds, en fait.
Ouais.
Parce qu'ils ne comprennent pas et parce que je pense qu'eux sont nés dans une époque où, voilà, c'est, la santé mentale, c'était...
C'était pas traité de la même manière. C'est pas leur priorité du tout.
Exactement, on n'en parlait pas. Eux, leur priorité, c'était de trouver un travail, nourrir la famille, etc.
Exactement.
C'était beaucoup plus... C'était des besoins primaires, en fait,
exactement.
Finalement.
Ouais.
Là où nous, bah, en fait, ces besoins-là, on a...
Entre guillemets, on a... une observation différente dans le monde.
Exactement, on a eu besoin primaire.
Exactement, c'est ça.
Exactement, et du coup, Et du coup, c'est important. Excusez-moi, c'est un sujet qui me touche vraiment.
C'est normal.
Ça me touche vraiment parce que c'est trop banalisé. Et comme l'a très bien dit Camille, la santé mentale, ça fluctue. Il y a des moments où ça va très bien, des moments moins bien. Et c'est vrai que ça peut se questionner. Enfin, moi-même, je me suis souvent questionnée, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale d'avoir ces fluctuances, en fait, finalement? Pourquoi je n'arrive pas à être comme tout le monde normal? Sauf qu'en fait, si on regarde bien dans chacun de nous...
Tout le monde.
Tout le monde a des soucis. Ouais. Tout le monde. C'est juste qu'en fait, on a un masque...
On les voit que quand ils explosent.
Non, mais on a un masque dans la société. C'est-à-dire qu'il faut être souriant, il ne faut pas montrer qu'on est faible, il ne faut pas machin, il ne faut pas truc. Sauf qu'à un moment donné, on a tous, même nous autour de la table, même vous qui nous écoutez, on a tous explosé. Parce qu'en fait, c'était trop. Parce qu'en fait... on accumule des petits traumas, des non-dits. Et les choses même banales de la vie quotidienne peuvent faire que ça va pas. Et c'est OK. Après, on a de la chance. On est dans un pays où il y a des dispositifs pour nous aider. Mais je pense beaucoup aux personnes seules. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir mes parents.
Ouais.
Donc, je comprends les gens qui sont isolés. Je l'ai été moi-même pendant très longtemps. Et je trouve que c'est important d'en parler. Parce que même en étant isolée, c'est compliqué. En fait, je ne sais pas comment expliquer. J'en perds mes mots tellement.
T'inquiète, on va trouver.
Quand on a été isolée comme ça, on est habitué à se battre tout le temps.
Ouais.
Tout le temps, à se battre pour tout. Moi, la première, j'ai dû me battre pour me faire une place dans la vie, pour me faire une place dans la société. Pour me faire une place tout le temps, en fait, et pour m'affirmer en tant que personne. Parce que finalement, quand on a été beaucoup isolé, on a beaucoup été invisible.
Ouais.
Moi, ça a été mon cas. Maintenant, ça va, je suis un peu la star de ma propre vie.
T'es la star, hein.
Voilà. Mais oui, c'est un peu une revanche sur la vie, finalement. Donc oui, c'est pour ça que quand je rentre dans une pièce, je dis « Salut, c'est votre star préférée, voilà.
» Comme ça, on le sait.
On le sait, exactement. Mais voilà, c'est important. Et moi-même, je fais partie d'une association.
Elle s'appelle comment, cette association ?
Repère 75. Ouais. C'est une association qui aide les anciens enfants placés. Et qui a été créée par des enfants placés.
Okay.
Moi-même, ayant été placée, forcément, ça me parle.
Okay.
Y a énormément de jeunes aujourd'hui qui sont dans ce cas-là, dans ce parcours de placement, qui ne savent pas vers qui se tourner. Donc nous, on est une association qui aide les jeunes adultes à démarrer dans la vie. Donc s'ils ont des problèmes de papier, s'ils ont des problèmes de logement, mais aussi, on parle aussi de santé mentale. Enfin, moi, je l'ai instauré parce que c'est important. Donc on est une belle communauté. Et c'était la minute pub parce que
c'est important.
Pour moi,
c'est
si je parle de santé mentale, je peux pas ne pas parler de l'association dans laquelle je suis parler de mon parcours
de
aussi.
Parcours,
moi, la santé mentale, ça a vraiment rythmé ma vie. Je me suis battue toute ma vie. Je me bats encore aujourd'hui. J'ai fait des études, j'ai tout fait pour justement atteindre un niveau. Que, il y a 10 ans, vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit, mais MDR. je suis très contente, j'en parle très peu. Des gens autour de moi ne savent même pas, en fait, que j'ai eu ce parcours-là et ne connaissent même pas tous les combats que j'ai pu mener pendant ma vie. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je me mets un petit peu à nu parce que forcément, on a des auditeurs. On a forcément dans nos auditeurs des gens qui souffrent de santé mentale.
Exactement.
Mais aussi des gens qui ont peut-être été placés et qui ne savent pas vers qui se tourner, et qui sont perdus. La santé mentale aussi, c'est aussi rythmé par l'avenir. Quand on est petit... Ouais, t'as vu le petit slide quand on est petit, on nous dit souvent « Ah, tu veux faire quoi plus tard ?» Alors au début, il n'y a pas de pression particulière. Puis plus on grandit, plus on a la pression. « Tu veux faire quoi plus tard ? Mais tu veux faire quoi plus tard ?» Et moi, j'ai grandi dans un système, où l'aide sociale à l'enfance, où... en fait, on nous met énormément la pression sur ça.
Ouais.
C'est-à-dire que à 18 ans, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Sinon,
tu peux pas te retourner.
On t'aide plus.
Ouais.
On t'aide plus.
Ouais.
Et donc moi, j'ai eu cette pression énorme sur mes épaules et il y en a eu d'autres. Il y a pas que moi. Il y en a énormément. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais du bagou. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire quoi ?
J'avais de la bouche, quoi.
Enfin,
genre, moi, si je veux un truc, je l'ai, en fait, finalement.
Ouais.
Et moi, je me suis un peu opposée à ce truc de... je vous impose quelque chose, parce que l'aide sociale à l'enfance, c'était beaucoup ça. On vous impose de faire tel type d'études, tel type de trucs. Je dis non, moi, je vais faire un master. Ils m'ont dit, ah d'accord. Donc bon, j'avais la chance d'être un petit peu brillante à l'école. Donc j'ai réussi à me faufiler, à me créer un chemin. Mais voilà, ça a été très compliqué. Au début, je voulais être prof. Okay. Voilà, je voulais être prof d'anglais. Voilà. Et puis en fait, en fin de licence, j'ai fait un stage. Je me suis dit, mais pas du tout, ma belle.
Pas la du réalité tout. T'a frappée.
Pas du tout. Faire 5 fois le même cours. Bon, je respecte beaucoup les professeurs, hein, par contre. Ouais, hein. Vraiment, ouais. Vous faites
c'est un travail incroyable.
Voilà, vous faites un travail incroyable. Mais en fait, je me suis dit, répéter 10 fois la même chose, ça me saoule.
Ouais.
10 fois le même cours, ça me saoule. Je me suis dit, bon, je vais laisser ça.
Tu vas pas t'épanouir.
Je vais laisser ça à des gens qui sont passionnés et qui ont vraiment de la pédagogie et de la patience. Ouais. Seule chose que je n'ai absolument pas. Enfin, ça dépend pourquoi, mais non.
pas dans ce domaine-là.
Pas dans ce domaine. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée en fin de troisième licence, licence à me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie et à stresser, à vraiment angoisser par rapport à ça. Et j'ai cherché. Oh, vous m'auriez vu, on aurait dit une zinzin. Vraiment, mes recherches internet, c'était what the fuck.
Ouais.
Mais genre vraiment. Et bon, quand j'ai eu enfin trouvé, ça s'est apaisé un petit peu. Mais après, il y avait eu la question financière et machin. Et le stress est beaucoup lié à la gestion financière aussi.
Okay.
Que ce soit les jeunes, les moins jeunes.
Ouais.
Je trouve que dans la société, c'est beaucoup ça.
Ouais, c'est une charge.
C'est une charge mentale, hein, gérer son argent, trouver des financements pour, par exemple, ses études. C'est quelque chose de... Voilà, on n'en parle pas assez, mais c'est une charge.
Clairement.
Voilà, donc en fait, finalement, voilà, ma vie a beaucoup été rythmée par le stress. L'anxiété, je ne sais pas si ça a été moteur, peut-être que oui, peut-être que non, mais toujours est-il que pendant plusieurs années, j'ai beaucoup négligé ma santé mentale.
Ouais.
Et je ne recommande pas du tout, c'est pas ouf. Franchement, pas ouf.
Non, pas ouf.
Pas
c'est
ouf.
Comme négliger sa santé, tout simple.
Ouais, non, ouf. Mais vraiment, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Parce que
répercussion.
Parce que vraiment, quand votre entourage, il dit, mais Camélia, ça va? Mais pourquoi tu as cette réaction? Et comment on t'explique? Comment t'expliques? Le trop plein, c'est compliqué. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un sujet qui me touche vraiment.
Ouais.
Et pour en revenir à l'histoire de ma maman, effectivement, elle est atteinte de schizophrénie.
Ouais. C'est quoi la schizophrénie?
La schizophrénie, c'est une maladie mentale. Est-ce que c'est moi? À ne pas confondre avec
la bipolarité,
c'est légèrement différent. En fait, c'est causé par beaucoup de traumatismes qui n'ont pas été soignés. Et puis d'un coup, en fait, c'est comme un trop-plein et la personne explose. Et moi, typiquement, dans son cas, elle a l'impression que le monde lui en veut, lui veut du mal. Et c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait, c'est des réactions qu'on ne comprend pas.
Et c'est momentané ou c'est tout le temps?
Non, c'est par période. En fait, la schizophrénie, c'est vraiment... Il y a une période où ça va pas.
Ouais, ça se déclenche.
Ça se déclenche. Puis après, une période d'hystérie. Et puis après, une période de calme. Et en fait, ça fait comme ça. C'est un cercle vicieux. Et du coup, bah voilà, toute mon enfance, j'étais là en mode... déjà, je ne savais pas. Je n'ai su qu'à partir de l'âge de 12 ans.
D'accord.
Parce qu'elle a vraiment été diagnostiquée à ce moment-là.
Ouais.
Avant ça, il n'y avait pas de diagnostic. Donc moi, ça a été un choc. Je vais pas vous mentir, j'étais là en mode « Waouh, c'est quoi ça ?»
Ouais.
Et c'était un sujet très touchy pendant très très longtemps. Même encore aujourd'hui, c'est un peu touchy. J'ai du mal à en parler, j'en parle pas autour de moi. Quand on m'en parle, j'esquive le sujet. Parce que c'est dur en fait. C'est dur, surtout quand c'est un parent. Parce que forcément, il y a la question d'identification. Je ressemble à ma mère comme deux gouttes d'eau, physiquement. Ouais. Donc forcément, il y a de l'identification et on se dit « bon, ça peut être moi ». Voilà, donc en fait, j'ai beaucoup, pendant mon enfance, pendant mon adolescence, en fait, j'avais peur justement d'avoir ces mêmes troubles. Parce qu'effectivement, je voyais que ma santé mentale, elle fluctuait, je voyais que j'avais des traumas, j'étais là en mode « l'accumulation, là ». Et je savais que ça se déclenchait à l'âge adulte, le jeune adulte. Hein. Et du coup, j'avais extrêmement peur. Je me suis dit... J'ai pas envie d'être complètement ravagée, mais voilà. Donc en fait, c'est voilà, j'ai un rapport à la santé mentale qui est assez compliqué, on va dire. Voilà, ma mère est sous, enfin ça va là, ouais. Ça fait des années qu'elle est stable,
on elle a trouvé.
Voilà, en fait ils réajustent en fait le traitement, mm-hmm. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des moments où on savait pas où elle était, il y avait des moments où on savait, enfin les réactions elles étaient disproportionnées, enfin voilà, c'est vraiment c'est pas stable quoi, ouais. C'est pas stable, et pour se construire c'est un peu compliqué quand même, donc voilà, en fait moi je me suis vraiment, j'ai vraiment construit mon identité autour de ça, mm-hmm. autour de bah moi ma personne, il fallait que je me dissocie aussi de sa d'elle, personne à ouais. elle en fait, parce que finalement on peut pas faire copier-coller, c'est pas possible, même avec un parent lambda on va dire, ouais, on peut pas faire copier-coller. Donc oui, effectivement, il y avait, j'ai eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de traumas,
de choses,
voilà. Et donc
il y a eu un trop-plein finalement quelque part.
Il y a eu un trop-plein, oui, effectivement. Après là, bon, aujourd'hui ça va.
Parce que tu t'es construit aussi de ton côté. Ouais,
exactement. Mais ça a été dur.
C'était une épreuve.
C'est ouais, c'est pas ouf.
Tu recommandes pas.
Je recommande pas, mais bon, je pense que si je puis y arriver, je pense que
c'est possible.
C'est possible, en fait. C'est possible. Il faut beaucoup de force mentale parce que forcément, c'est dur. C'est dur. Et je m'en rends pas souvent compte. Généralement, je vis ma vie, je suis là, oh, mais c'est rien. Quand les gens ils me demandent par rapport à mon histoire ou quoi, je suis là, mais c'est rien, tranquille, ça.
Tu veux dédramatiser ?
Oui, ça. En fait.
Pour toi ou pour eux ?
En fait, moi, je veux pas de la pitié des
gens. Okay.
Je veux pas, parce qu'en fait, je ne suis pas à plaindre, même si j'ai eu beaucoup de choses. Mmh. Je pense qu'on a tous.
On peut pas te résumer à ça.
On peut pas me résumer à ça, et moi, j'ai toujours. C'est pour ça que je l'ai toujours caché.
Ouais.
J'ai toujours rien dit, parce qu'en fait, je voulais pas être résumée à
la fille de la madame qui a des problèmes mentaux
et qui a été placée.
Ouais. Et qui a été placée.
Ça fait beaucoup quand même.
Ouais, c'est très, très voilà. Bon,
ça fait beaucoup, là, et je voulais vraiment être associée à autre chose, même si effectivement ça fait partie de mon parcours. Mmh. Et j'en suis. Je pense que si j'avais pas eu ce parcours-là, j'en serais pas là aujourd'hui.
Clairement.
Honnêtement. Mmh. Il y avait des trucs, c'était pas cool, vraiment pas cool, mais ça m'a permis de me construire, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, d'avoir eu des victoires aussi.
Ouais, c'est important.
Voilà, c'est important. Moi, je sais que chaque victoire, je les célèbre. Qu'importe les victoires.
Ouais, ça compte double, hein, dès lors qu'on s'en rend compte.
Voilà, exactement, on se récompense. C'est important, c'est très important pour la santé mentale de se récompenser.
Ouais.
J'insiste dessus. Par exemple, moi j'aime beaucoup le sucre.
Ouais.
Me demandez pas pourquoi. Voilà. Et donc, des fois, je sais pas, je vais avoir une victoire, je vais avoir un diplôme où je me récompense. Je vais acheter du chocolat, je vais manger du chocolat parce que pour le cerveau, c'est très bon.
Ouais.
C'est très bon de, voilà, de. Non, mais même de se récompenser.
Ah oui, aussi.
C'est hyper bon pour la santé mentale. Voilà, là, tous autour de la table demain, quand vous avez une victoire, récompensez-vous. C'est important.
Et si vous achetez du chocolat, vous penserez tous à Camélia.
Exactement, chocolat noir, s'il vous plaît. voilà, donc voilà, moi, c'est un... je pourrais en parler des heures hein, de la santé mentale. Je vais laisser la parole aux autres parce que sinon, voilà.
En tout cas, merci beaucoup de t'être autant confié à nous. Et merci aussi pour
tes
conseils,
très profond.
Mine de rien, tu t'es mise à nu, mais ouais. T'as aussi pu prendre du recul sur tout ce que t'as pu vivre.
Totalement.
Pour conseiller justement nous autres qui sommes autour de cette table, ou même les auditeurs et auditrices. Donc merci pour cet exercice qui devait pas du tout être facile.
Non, c'était pas simple.
C'était pas simple ?
Non, pas
Nouvelle
simple.
Nouvelle victoire ?
Ouais.
Chocolat ce soir ?
Chocolat ce soir.
Chocolat ce soir, allez.
Écoute, merci beaucoup Camélia. Je pense que je vais me tourner vers toi, Noé.
Non.
Non, on fait le jeu. Tu vas pas faire comme Camélia finalement.
Non, mais son, ouais, passons. Non.
Ok, non.
Bah, t'es obligé d'y passer.
Tout simplement.
Oui, mais non, pas maintenant.
Alors, Benoît, est-ce que tu veux bien nous donner ton point de vue justement sur la santé mentale ?
Écoute, moi, mon point de vue sur la santé mentale, c'est surtout un constat que aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Ça s'est beaucoup démocratisé, c'est une bonne chose parce que, en fait, déjà, rien que la notion de santé mentale, moi, je l'ai eu personnellement, j'ai eu très tard, hein. Franchement.
Ouais.
Je vais pas vous mentir, peut-être il y a 3-4 ans, vraiment, la notion de santé mentale, c'était important. Avant, je l'englobais dans un tout et j'appelais ça la santé. C'est-à-dire que faire en sorte d'être en bonne santé, d'être bien tout court. J'incluais forcément dedans la santé mentale. Sans pourtant le savoir hein, mais c'était pas quelque chose que j'arrivais clairement à identifier, et avec la démocratisation qui a eu lieu surtout sur les réseaux sociaux,
ouais.
Bon, en fait ça m'a permis de de mettre en lumière cette problématique-là. Donc moi aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que on en parle beaucoup. C'est tant mieux. Je pense que on n'en parlera jamais assez, parce que quand même,
c'est très bien dit, ça.
Quand même, en fait, faut se dire que chaque jour, c'est pas le fait qu'il y a des problèmes, mais chaque jour il y a des, comment dire, il y a des choses quand même assez douloureuses, que ce soit à notre niveau, mm-hmm, ou à l'échelle d'un pays ou de pays ou de plusieurs pays, et parfois ça se transmet de génération en génération. Mm-hmm. Donc je pense que c'est vrai que c'est une notion qui est importante, et je pense qu'il ne faut pas que ça reste juste un label, c'est-à-dire qu'on en parle parce que c'est à la mode d'en parler.
Ouais, c'est important.
En parler pour, je pense, vraiment faire en sorte que les choses s'arrangent, et de faire en sorte qu'aussi que les générations futures aient tout simplement les outils, lorsqu'elles ne vont pas bien, pour aller mieux.
Ouais.
Donc déjà, moi, c'est un peu sur ça que naît la première approche que j'ai avec la santé mentale. Je vais beaucoup m'attarder sur les environnements, parce qu'on pourrait parler énormément des traumatismes, et je pense que l'un des premiers vecteurs aussi de problèmes de santé mentale, je sais pas comment on pourrait mieux qualifier cela, mais je dirais que c'est surtout les environnements dans lesquels on a grandi. Moi, pour ma part, j'ai grandi en cité. Mm-hmm. Et du coup,
où précisément, dans quel
Épinay-sur-Seine, Orgemont, yes. Si vous écoutez les amis,
9-3, tout simplement,
c'est pour vous. Et je pense que cette éducation en cité, le fait d'avoir grandi également dans, on va le dire, en HLM, ça a construit aussi une partie de ma vie. Il y a eu énormément de bons côtés, il y a eu aussi des mauvais côtés. Et c'est en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines problématiques auxquelles je pouvais faire face et que d'autres personnes ont dû faire face, mais c'était principalement dû à leur environnement. Et certaines personnes qui n'étaient pas bien dans leur, qui se sentaient pas bien dans leur peau,
ouais,
une fois qu'elles aient pu déménager, par exemple, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent en fait.
Totalement.
Et donc, moi, c'est vrai que c'est important de se rendre compte que ok, maintenant on a conscience de la santé mentale, mais aussi de se dire ok, qu'est-ce qui détériore la santé mentale?
Ouais.
On a les environnements, le fait d'avoir grandi dans certains environnements, mm-hmm, problématiques.
Ouais.
Ça peut être, je parlais d'une ville, d'un quartier, mais ça peut être également aussi au sein du foyer.
Ouais.
Ça peut être aussi, et on en parle de, en fait, on ironise beaucoup sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est à prendre de l'ampleur. Mm-hmm. Pour l'instant, on fait des blagues dessus, je fais exprès de le teaser comme ça.
Ouais.
Et après, on va aborder les choses de manière sérieuse. Je l'espère, même si malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, on ne veut pas trop, mais c'est la santé mentale au travail.
Ouais, c'est très vrai ça.
Oui.
Le cadre du travail, j'ai l'impression en France, hein, quand on écoute les témoignages, et bon, je pense dans le monde occidental, puisque quand on regarde un peu ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre, il y a souvent un peu les mêmes problèmes.
Il y a une résonance,
il y a les mêmes problématiques qui reviennent, mais ouais, la santé mentale au travail, c'est super important. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons aussi de beaucoup de problèmes au sein des foyers, d'avoir les parents qui reviennent, qui sont frustrés, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui sont malades parce que dans leur travail, ils ne s'épanouissent pas. Dans leur travail, il y a des conditions qui sont problématiques, et ben, du coup, ben, ça se retranscrit sur la famille. J'ai eu l'occasion une fois d'échanger avec d'anciens collègues à moi qui me disaient que un jour ils s'étaient tellement dépassés, ils sont dépassés par leur boulot, dépassés par les conditions dans lesquelles ils travaillaient, ils sont revenus au travail et là, ben, vous connaissez les enfants, ils sont excités, pleins d'énergie, plein de vie, tout simplement.
Des enfants, quoi.
Des enfants. Et là, l'enfant chahute un peu trop et le collègue est à ça de péter les plombs, et il me dit qu'à ce moment-là, il s'est dit, ah ok, là, il y a un vrai problème.
Ah, il a pu prendre le recul.
Il a réussi, et tout le monde n'arrive pas à faire ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur les différents environnements dans lesquels on évolue, parce que je pense, hein, c'est mon expérience personnelle, dans beaucoup de cas, mm-hmm, ça explique 60% du problème. Tu vois,
ouais.
Le fait d'être dans un environnement qui ne te permet pas de t'épanouir, qui ne te permet pas d'être...
Un environnement pas sain, finalement.
Exactement. Donc, moi, c'est vrai que je pense que c'est un élément auquel il faudra, mm-hmm, à l'avenir, sincèrement, je pense qu'on puisse le temps de s'arrêter, de se dire, ok, est-ce que ce n'est pas tout simplement notre société, la manière dont elle est façonnée, qui crée, mm-hmm, ces traumatismes.
L'ultra-capitalisme.
Des traumatismes qui créent un environnement où les gens ne se sentent pas bien sur l'aspect santé mentale, parce que on est un peu dans une société un peu hypocrite,
Oui.
Qui prône plein de choses comme voilà, la santé mentale, le fait de
le bien-être,
etc.
Développement,
et
épanouissement.
Qui, à côté, dans son, j'ai envie de dire, dans sa structure, dans sa base, cette fondation, on a un système, on vit dans un système de travail qui asservit les gens.
Ouais.
Aujourd'hui, on entend des débats, les gens se plaignent trop au travail, les gens ne font pas assez d'heures. Les gens sont, on qualifie les gens d'assistés même.
Ouais.
Et à aucun moment donné, on se pose la question, mais en fait, si la personne, par exemple, ne veut pas retourner au travail, est-ce qu'il n'y a pas une d'autres, il y a des raisons en fait, qui font que les gens n'ont pas forcément
envie d'aller... S'il y a autant de personnes qui ne se sentent pas bien, peut-être qu'il y a une vraie raison.
Et surtout que tu as des pays qui font des études comme ça. Qui, par, je crois que je sais plus
Suède,
quel pays, je crois que c'est la Suède ou l'Angleterre, mais tu as des études sur comment les gens se sentent au travail. Tu vois.
Ouais.
C'est vraiment pris en compte. Par exemple, je crois qu'en Angleterre, il y a l'indice du bonheur.
Ah oui, j'en ai entendu parler.
Donc, ce genre d'éléments-là. Ça veut dire que je pense qu'il faut, c'est important de regarder comment les choses sont faites, elles sont façonnées, et de se dire, ok, est-ce que c'est en adéquation avec les individus et le besoin des individus?
Oui.
Si on part de principe qu'aujourd'hui, on sait, et on l'entend tout le temps, qu'on a besoin d'être épanoui dans notre travail, alors comment faire pour que...
Pour
qu'on puisse l'être et pas de se dire ah mais les gens ne veulent plus travailler,
ils sont ingrats,
je pense que c'est important de remettre l'église au centre du village.
Exact.
C'est pour moi c'est super important en fait, c'est de se dire ok, c'est quoi ma cohérence, et moi je perçois vraiment aujourd'hui un manque de cohérence, mais je sais d'où il vient, hein. Je suis pas naïf, je sais que voilà, on vit dans une société capitaliste, il y a un besoin de profit, et profit ne veut pas dire bien-être.
Bien-être, ouais,
voilà.
Clairement.
Il suffit d'aller voir dans d'autres pays dans le monde et on le comprend beaucoup. Donc, nous, on va dire qu'on vit quand même une époque où, surtout en Occident, ok, on peut mettre des mots dessus.
Et on peut se poser les questions.
On peut se poser les questions, etc. Et il ne faut pas que ça reste juste de la constatation, c'est de se dire, ok, comment je fais pour que mon environnement
change
et ensuite je puisse être dans de bonnes conditions. Parce qu'au final, c'est ça qui
pose problème.
Qui pose clairement problème. Donc, donc moi, je pense que c'est vrai qu'il faut s'attarder là-dessus. C'est très bien qu'on en parle. Encore une fois, on n'en parlera jamais assez. Mais que ça ne reste pas juste, comment dire...
La constatation.
La constatation et qu'on puisse ensuite engager des actions concrètes.
Oui, après, c'est vrai que j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Et ce que disait tout à l'heure Noé aussi. Je pense que nos parents, s'ils ne parlaient peut-être pas de santé mentale, c'est parce qu'en termes de priorité, eux, ils étaient dans la survie.
Ouais.
Et je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui restent dans des mauvais tafs, pas par choix, par envie, mais par survie.
Exactement.
Et je pense que ce qui est très difficile, c'est de blâmer ces personnes-là, d'être mal dans leur peau, alors qu'on vit dans une société qui fait en sorte que tu sois mal dans ta peau.
Exactement.
D'ailleurs, je sais plus... Il y a une femme, je crois qu'elle est, elle est dans 1, 2, 3, elle est dans la politique. Et alors, elle s'appelle comment ? Je ne sais plus du tout. Et en fait, elle expliquait que oui, les personnes qui sont au SMIC sont des flemmards. Et elle a fait un documentaire.
Oui, je n'ai pas lu tout son nom, par contre.
J'ai
entendu parler, j'ai vu des extraits.
Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Des cuissons ?
C'est Thaïs.
Des cuissons.
De toute façon, ce n'est pas très grave.
Non, c'est important. C'est très important de bien dire.
Mais c'est Thaïs Descujon, Descufon.
Je crois que vous trompez de personne.
Non, c'est Thaïs Descufon.
C'est pas elle qui a fait le reportage.
Non, c'est pas elle, elle fait aussi des fois les propos dans le même style, pour le coup, j'ai oublié son prénom, de toute façon on essaierait peut-être de la mettre en description, mais donc elle avait eu des propos assez durs par rapport justement aux personnes qui touchent que le SMIC, et entendons-nous bien, c'est pas un choix de toucher le SMIC, on se bat pas pour avoir juste le SMIC, et pendant plusieurs mois en fait elle a fait différents métiers où justement elle ne touchait que le SMIC, et elle est revenue sur ses paroles. Et je crois qu'elle avait présenté justement les choses d'un autre point de vue. Et elle disait, en fait, je ne m'étais pas du tout rendu compte de la portée de mes propos et à quel point c'était très difficile, en fait. Que les métiers où tu es le moins bien payé, ce n'est pas les métiers où c'est le plus simple de travailler. Donc, alors, je ne sais pas si Camille, elle va retrouver ça.
Je suis sur le dossier.
Sur le coup,
t'es tu.
Avec ses lunettes noires, là, t'es un hacker. C'est incroyable à voir.
Ça aussi, c'est très important de notifier le fait que par moment, en fait, on est tellement pris dans notre vie qu'on n'a pas le temps de se dire « Ah, ok, bah alors là, c'est ma santé mentale qui ne va pas bien. Au travail, je change de métier. » C'est pas aussi simple que ça, même si y a une vraie sonnette d'alarme qui est là, quoi, comme tu disais, Camélia.
Mais justement, je voulais rebondir sur ce point.
On a son prénom. si vous le vous souvenez.
Ah, j'écoute, vas-y. Vas-y.
Il s'agit de Sarah Saldman, c'est une avocate.
Okay. Ouais, je me suis complètement trompée.
Ça arrive.
Non, ça arrive. Ouais. Et oui, effectivement, dans ce reportage, on voit que. En fait, on a même une scène où elle se met à pleurer.
C'est ça.
Elle se met à pleurer parce qu'elle se rend compte que les
conditions... Elle faisait des ménages, je crois.
Ouais. Après, personnellement, là, c'est vraiment mon avis subjectif. Ouais. Et vous faites votre propre opinion de la politique. Je pense qu'elle est totalement hypocrite et je pense qu'elle ne pense pas ses excuses.
Ah, alors moi personnellement, c'était même pas une question de si ses excuses étaient authentiques ou pas.
Non, c'était parce que tu l'as mentionné à la fin, comme quoi elle revient sur ses propos. Je pense que cette femme-là n'est pas du tout sincère. Voilà. Parenthèse fermée.
C'est ton avis et il t'appartient. Mais pour moi, ça reste important qu'une personne qui prend la parole comme ça, avec des propos aussi virulents. En fait, j'ai trouvé ça honnêtement noble, le fait qu'elle se soumette à l'exercice. Mmh. Mmh. Parce qu'elle aurait très bien pu juste dire en fait, vous êtes tous des feignasses et point barre. Là où, voilà, il y a eu un autre cheminement.
Oui, oui.
Mais justement, je voulais revenir sur un point, conditionnement, sur notre société, ouais. etc. Une fois, j'ai eu une discussion avec mon petit frère.
Ouais.
Donc, lui qui a aussi eu un parcours de placement. Et je lui disais, mais toi, ça va en ce moment ? Il m'a dit « Oui, ça va et tout. » J'ai dit « Mais tu sais, il ne faut pas négliger ta santé mentale. » Et en fait, j'ai fait un constat.
Ouais.
C'est qu'effectivement, les hommes négligent aussi leur santé mentale. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous va en parler.
Franchement, ce que je veux dire, ça va être tellement...
Mais en fait, ce que je disais à mon petit frère et ce que je dis aussi au sein de mon association, c'est que vous soyez homme ou femme, la santé mentale, c'est important.
Mmh. Et ça ne vous rend pas plus faible.
Exactement. J'avais un jeune, justement, que j'aime beaucoup,
ouais.
qui a un avenir assez prometteur, qui fait des études d'architecture. Et qui, à un moment donné, malheureusement, s'est retrouvé à la rue.
Ouais.
Et donc on l'a aidé à trouver un logement, etc. Et moi je lui ai dit mais comment tu te sens, etc. Oh mais ça va, mais il y a pire. Je lui ai dit non mec, néglige pas.
Mm-hmm.
Je lui ai dit il y a pas pire. Enfin, je lui ai dit oui t'es brillant, etc. C'est super ce que tu fais, mais pose-toi 5 minutes et pense à ta santé mentale. Et en fait j'ai remarqué que dans la société, donc on parle beaucoup de la santé mentale, on parle beaucoup des femmes, etc. Bon, parce que ben, les femmes, forcément, avec tout ce qui se passe dans la vie d'une femme, forcément, ça les touche beaucoup. Mais je trouve qu'il y a un peu des inégalités.
Ouais.
Oui, c'est la première fois que je vais dire ça sur les hommes, hein, désolée.
Ouais.
T'as pas été désolée.
C'est pas à mon habitude. Mais du coup, oui, effectivement, il y a une inégalité concernant la santé mentale pour les hommes. Parce qu'en fait, comme me disait mon petit frère, à un moment donné, il me dit... Ouais, mais moi, je suis un homme, il faut que je sois fort. Enfin,
très triste.
C'est hyper triste.
Ouais.
Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un conditionnement, en fait, des hommes à toujours être fort, à toujours pas montrer de faiblesse. Le côté émotionnel. Voilà. Et donc, du coup, oui, effectivement, ça creuse ces inégalités-là et ça creuse les problèmes de santé mentale parce que, ben, par exemple, dans un couple, il y a un homme, une femme, ou des fois les deux.
Ouais,
voilà.
Mais là, dans le cadre où il y a un homme, une femme.
Dans le cadre où il y a un homme, une femme, bah, si le côté émotionnel, si le côté santé mentale n'est pas pris en compte chez l'un, ça va poser problème.
Il y a un déséquilibre.
Il y a un déséquilibre, exactement.
Est-ce que Benoît ou Noé, vous voulez rebondir parce que ça vous concerne directement?
Je pense que Noé, il a envie de parler, là. J'ai l'impression. De toute façon, je pense qu'il va parler, je vais suivre ou l'inverse. Mais
ouais, non, mais sur ça, t'as raison. De toute façon, moi, je pense que je vais... C'est pour ça que j'ai dit non, c'est parce que je vais vraiment prendre le temps d'aborder tout, de vous entendre pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire, parce que je pense que ça va être autant long que...
Ouais.
Vraiment, Camille, elle a dit beaucoup de choses, elle a raison. Mm-hmm. Et je... Voilà.
Merci.
Tu me diras juste, du coup.
Oui. Oui, vas-y, tu peux...
Moi, je partage énormément ton avis. Effectivement, la santé mentale des hommes, elle est clairement mise au banc de la société. Je suis un peu radical dans mes propos, parce qu'en fait, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est une société hypocrite, voire même schizophrène. C'est que d'un côté... On te prône le bien-être, on a plein de slogans. D'un autre côté, on te met dans les conditions pour ne pas justement t'accomplir et réussir comme il se doit, ou du coup comme la société le prône. Et lorsque tu es défaillant et que tu veux exprimer ta défaillance et dire que ouais mais je fais ça parce que je suis pas bien, ouais mais non, t'es un homme. Et pour moi, c'est ça la problématique, et c'est une grosse problématique, parce qu'en fait, on l'a vu au quotidien.
Mais tu sais que moi, ça va plus loin, et c'est pour ça que je voulais dire, tu sais qu'il y a homme, et il y a aussi la couleur de peau. qui rentre en compte. Mais on en parlera encore une fois de plus.
Justement,
qui est terrible. Mais on en parlera, on en parlera.
Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Un homme, ça ne pleure pas. Et ça parle d'un parcours d'immigration de quelqu'un qui est issu de la communauté maghrébine. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Exactement. Mais rien que le titre est révélateur.
Ouais, exactement. Ouais.
Bon. C'est une injonction qu'on retrouve beaucoup. Hein.
Et, moi, je le pense sincèrement. Hein, que c'est un peu, pour moi, c'est un peu une fumisterie aujourd'hui quand on te dit « Ouais, non, mais les hommes, exprimez plus vos émotions, etc. » Enfin, comment dire ? Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand tu dis à quelqu'un « Tu peux exprimer tes émotions », ça veut dire que tu es en capacité de les entendre.
Ouais.
Mm-hmm. Et quand tu n'es pas en capacité d'entendre une personne dire son ressenti parce qu'elle n'est pas forcément du même genre sexuel que toi, ça devient très compliqué. Ou parce qu'elle n'a pas la même couleur, ou parce qu'elle ne vient pas du même milieu que toi, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une société vraiment schizophrène et qu'aujourd'hui, on va demander aux hommes d'exprimer leurs émotions, d'être en phase, soi-disant, avec eux-mêmes. Mais d'un autre côté, on attend d'eux qu'ils restent compétents, qu'ils restent productifs, qu'ils remplissent toutes les cases de ce que j'appelle du surhomme. En fait, ce surhomme n'existe pas. Et ces attentes-là, ce qui m'énerve, mais en réalité, maintenant, je m'en suis personnellement, en tant qu'homme, je m'en suis totalement détaché. Je fais mon parcours en adéquation avec mes valeurs. Après, si je réussis, tant mieux. Je réussis pas, tant pis, c'est la vie. Mais ce qui m'énerve le plus haut point, je dirais, c'est que personne ne prend compte du contexte. C'est-à-dire que personne ne regarde, ok, là, sociétalement parlant, comment ça se passe ? Est-ce que les gens s'enrichissent ou est-ce que les gens s'appauvrissent ? Est-ce que les gens ont plus de boulot ou est-ce que les gens ont moins de boulot ? Est-ce que les gens ont des bonnes conditions de travail ou est-ce que les gens ont des moins bonnes conditions de travail ? Est-ce que l'avenir qu'on propose aux gens, il est meilleur ou pas ? Et peu importe ces situations, on attend que l'homme, il soit opérationnel. Peu importe les situations, on attend que l'homme, il soit opérationnel. Il y a toujours cette attente de l'homme. Donc moi, pour ma part, encore une fois, je vous le dis, quand on parle de santé mentale, il ne faut pas que ce soit des slogans. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux, on se dise « Ok,
qu'est-ce qu'on fait ?»
On attend des hommes ça, mais est-ce qu'on les met dans les bonnes conditions ? Moi, je vais vous faire un petit parallèle. Hein. Quand j'ai passé mon diplôme du BAFA pour être animateur, il y avait notre ancien directeur, j'ai oublié son prénom, qui disait « Moi, je suis un directeur extrêmement exigeant envers mes animateurs. Je suis très exigeant. Je veux qu'il y ait ça, des imaginaires, des activités incroyables. Je veux vraiment que l'enfant, quand il sort du centre, c'était un Disney pour lui, tu vois, quasiment. Et il me disait, mais par contre, si je demande tant à mes animateurs, je les mets dans les meilleures conditions. Parce qu'il est inconcevable que je demande à des animateurs de me faire tout ça si moi, parallèlement, j'ai pas créé un espace pour qu'ils puissent le faire.
Ouais.
Et moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans des sociétés, c'est quand même incroyable. C'est qu'on est dans des sociétés où t'as, économiquement, c'est plus compliqué. Il faut savoir que l'achat aujourd'hui, la propriété, c'est plus compliqué qu'à l'époque de nos parents, voire même de nos grands-parents.
Mm-hmm.
Ça, c'est une dinguerie. T'as un niveau, t'as une possibilité d'enrichissement beaucoup plus complexe par rapport à avant. Bon, on dit beaucoup qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de millionnaires en France. Ok, mais il y a aussi une plus grande précarité qu'avant. T'as tous ces trucs-là qui se créent, on n'arrête pas de dire que le niveau de santé en France se détériore. Et à côté de cela, on dit aux hommes, soyez au top. On leur demande tout simplement d'être des surhommes. Pour moi, c'est totalement contradictoire.
Clairement.
C'est totalement contradictoire. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet, je le répète pour la quatrième fois, que ça ne reste pas un constat, mais que ce soit vraiment qu'on se dise,
qu'on se regarde
dans les yeux, qu'on se dise, ok, qu'est-ce qu'on fait pour que les hommes et les femmes
puissent avancer. Écoute, clairement. Alors, c'est très bien. Donc là, on a eu deux avis. Je pense qu'on va faire un seul jeu. Camille, qu'est-ce que tu en penses ? On fait un seul jeu ?
Ouais.
Alors, c'est pas un jeu, vous avez compris. Ouais. Camille est d'accord, donc c'est l'essentiel. En fait, ce qu'on a constaté avec Camille quand on a organisé, on a préparé cette nouvelle émission, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots trendy, donc beaucoup de mots tendance, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Ce que je vous propose, c'est que je donne un mot et que vous me donniez à peu près votre définition, ou sinon vous me dites je ne sais pas, et on voit qu'est-ce que dit vraiment la définition.
Ah ouais, hyper intéressant.
Oui.
Parce que, alors, il y a un mot que j'entends énormément, c'est pervers narcissique. Pour vous, c'est quoi un pervers narcissique?
Wow.
Alors,
pervers narcissique.
Ouais. Alors, moi, je peux répondre.
Ouais.
Parce que j'ai
c'est Béatrice qui répond en premier, toi. En vrai, de vrai.
Toi, je te garde pour la fin.
Ouais, on te garde pour la fin.
En fait, moi, je connais la vraie définition.
Bah voilà.
Noé ou Benoît?
Bah franchement, je vais prendre la parole, mais moi, quand j'entends pervers narcissique...
ça fait beaucoup.
Bah, en fait, si vous voulez... la manière dont moi je perçois, parce que effectivement j'avoue je connais pas la définition, c'est vraiment je me suis pas fait spoil quoi, tu vois. Pour moi c'est une personne qui déjà qui dit pervers c'est une personne qui de base va être assez, on va dire, je dirais le mot, oui, mystique avec les filles, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire vouloir être dans un truc de les vouloir en fait les mettre dans une position inconfortable, tu vois, de manière générale, hein, là je vous le dis de manière soft, tu vois, mais à peu près c'est ça. Et du coup, narcissique, c'est en fait être capable, pour moi, être en plus d'un pervers, être dans une sorte de manipulation, tu vois ce que je veux dire. C'est une alliance des deux, pour moi, pervers narcissique, tu vois. C'est vraiment une personne qui est donc de base, donc un pervers, on sait tout ce que c'est qu'un pervers, et genre narcissique, bon, une personne narcissique, c'est une personne qui se fait passer avant tout et tout, etc., tu vois. Mais donc, c'est pour moi ce côté, en fait, manipulation, en fait, donc pervers narcissique.
Okay.
Voilà. Moi, je fais, voilà, c'est comme ça que je le dirais. En tout cas, dans ma tête,
c'est ça.
Que t'as
franchement, la même
vision. C'est la même vision. C'est, pour moi, c'est surtout un manipulateur qui use de la relation, je sais pas si c'est la relation de couple ou relation amicale, je ne sais pas, pour amener à ses fins au détriment du bien-être de la personne.
Exactement.
Ok. Tu veux nous donner la définition, Camélia?
Ouais. Alors, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une personne qui a contribué à mon développement. Et qui, justement, est aujourd'hui psychanalyste.
Ok.
Et donc, qui m'a donné la définition.
Ok. Ouais.
Alors, déjà, pervers narcissique, ça ne se dit pas. Il faut dire pervers tout court.
Ok.
Parce qu'en fait, narcissique, c'est la même chose. Enfin, c'est deux mots répétés. Et donc, un pervers, c'est quelqu'un qui se complaît dans le fait de faire du mal aux autres, en utilisant bien sûr de la manipulation, mais tout en se mettant sur un piédestal.
Ouais.
En ayant de l'emprise sur sa victime.
Exactement. Mmh. Exactement. Et en fait, c'est pas que dans le cadre de relations amoureuses.
Mais totalement, en fait, c'est partout.
Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans les relations.
Pour moi, la première fois, et je vous le dis, hein, pour moi, la première fois, en tout cas, que ce terme, je l'entends, c'est même pas dans la relation amoureuse, c'est dans le monde du travail. C'est là où j'ai entendu le mot pervers narcissique.
Sérieux?
Jamais entendu ça. Enfin, avant, je voyais et tout, mais pour moi, en tout cas, les premiers pervers que j'ai pu constater dans ma vie, c'est dans le taf. Hein. Dans le taf, moi, mais bref. Bon.
Camille, est-ce que tu peux... alors,
j'ai mal à la tête.
Je vais te laisser reprendre pour lunatique et bipolaire. Parce qu'en fait, c'est des mots qu'on entend énormément. Pour vous, c'est quoi la différence entre lunatique et bipolaire? Camélia, Benoît, Noé.
Ah ouais.
Lunatique, pour moi, c'est quelqu'un qui a des humeurs changeantes. Du style, là, je suis joie, et puis dans 5 minutes, je vais être
colère.
Ouais.
Exactement, mais sans avoir de troubles mentaux, pour moi. Alors que bipolaire, enfin, je pense, il y a du trouble, en fait. Il y a du trouble psychique.
Ah, moi, j'irais le contraire, justement.
Enfin, ah ouais,
ouais, pour moi, quelqu'un dans ma tête de lunatique, c'est vraiment une personne qui a... tu sais, qui est vraiment, en fait, tu sais, fou, tu sais, qui peut passer vraiment du tout au tout, tu vois. Et bipolaire, je dirais plus que, tu sais, pour moi, encore une fois, je dis pour moi, mais parce que ça, en fait, je me rends compte que plus j'y pense, plus peut-être je dis de la merde, tu vois. Mais en mode...
tu sécures le
bail. Ouais, exactement. Tu sais, pour moi, quelqu'un de bipolaire, c'est un peu ce qu'on est tous. On est des fois, en fait, dans...
tout. Bah, bipolaire, c'est un diagnostic.
Attends, laisse-le réfléchir. Okay, bah,
en fait, pour moi, bipolaire, en fait, j'ai associé ça à des troubles, en fait, tu sais, d'être, on va dire, d'humeur changeante, mais en fonction aussi de ce que tu vis, de comment tu ressens les choses. Donc, pour moi, c'est quelque chose, en vrai, qu'on a un peu tous en nous, cette, tu sais, une bipolarité. C'est comme ça que je vois les choses, mais bref, ça se trouve.
Et bah, c'est Camélia qui avait raison.
Ouais, bah, je vois bien.
Un lunatique, c'est une personne qui a juste des humeurs changeantes.
Ok, donc c'était l'inverse.
Et un bipolaire, comme elle a dit, c'est un diagnostic, c'est une maladie mentale, alors que un trouble mental, alors que...
Lunatique, c'est juste un mot.
C'est juste un mood.
Mais on est d'accord que les deux, ça se ressemble.
Mais justement, c'est bien
qu'un bipolaire, ça se distingue sous deux formes.
Ouais.
Il a une phase de maniaque, et il a une phase dépressive. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être dans une grande euphorie et ultra maniaque, ultra, tu sais, et d'un coup, paf, un gros down. un gros maniaque.
Ok, mais ça, j'avais pas. Ok, d'accord, ok, je comprends mieux.
Mais c'est bien que tu te sois trompé parce que je pense que les gens qui nous écoutent,
et même moi, se trompent en fait.
Peut-être, hein.
Et puis même des fois, tu sais, à l'école et tout, et toi, t'es lunatique, et toi, t'es bipolaire. Et souvent, les gens, ils disent ça, mais en fait, c'est une plus grande portée que ça, c'est que c'est une réelle maladie et il y a un réel diagnostic. Je peux pas dire que toi, t'es bipolaire. Non, je suis qui pour te dire ça.
Je pense que c'est aussi beaucoup lié aux films et aux séries parce que c'est des termes qu'on a beaucoup entendus. Je pense notamment au terme schizophrène. Pendant longtemps, ce qu'on voyait dans les films quand c'était une personne qui était schizophrène, c'était quoi ? C'est elle voit d'autres personnes.
Elle voit d'autres personnes, mais elle a plusieurs personnalités.
Alors voilà, au tout début, c'était elle a plusieurs personnalités. Et après ça, quelques années plus tard, ils ont modifié le truc. C'est elle entend des voix ou elle voit d'autres personnes. Et malheureusement, nous on se dit que c'est ça la définition. Et je trouve que c'est important justement aujourd'hui de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai. Camille, je te laisse faire le prochain. Anxiété et angoisse.
Ouais, parce que. Alors attention, c'est deux notions qui sont très très proches, qui sont quasi pareilles. Mais il y a quand même une nuance. Donc l'anxiété, c'est une inquiétude qui est diffuse et durable face à des situations ou des incertitudes. Donc elle est accompagnée de symptômes comme la nervosité, des pensées envahissantes ou des tensions physiques. Alors, personnellement, je suis une grande anxieuse, donc je peux...
Tu parles par expérience aussi.
Oui, oui. Et du coup, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre. Il y a des symptômes physiques qui se manifestent. Et elle est du coup souvent liée à des préoccupations rationnelles ou des fois exagérées. J'étais hypochondriaque pendant un moment.
Ok.
Voilà. Donc mon anxiété venait de...
Elle t'emmène jusqu'à là-bas en fait.
Ah ouais, c'était ouais. Une angoisse. Qu'est-ce qu'une angoisse ? Alors c'est une réaction qui est plus intense et plus soudaine. Et c'est pareil. Alors accompagnée de sensations physiques, mais beaucoup plus fortes que l'anxiété.
Ok.
Donc ça peut être tachycardie, souffle coupé, sueur. Palpitation, tachycardie, poitrine, tu sais, quand tu te sens oppressé.
Ouais.
Donc c'est souvent c'est beaucoup plus impressionnant une crise d'angoisse
qu'une crise d'anxiété.
Ouais, parce que du coup, j'ai fait les deux.
Okay.
Voilà. C'était la minute.
Distinction. Par l'expérience.
Mais justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, la santé mentale, c'est aussi lié au corps.
Ouais.
Et ça, moi, je l'ai appris que. Très récemment, parce qu'en fait, bonjour, moi aussi, je suis anxieuse.
je suis extrêmement anxieuse
et puis je pense tout le temps. Et bon, j'avais de l'anxiété constante et j'avais des angoisses, mais ça ne s'était jamais manifesté par le corps. Et quand en fait, ça s'est manifesté par le corps, forcément, je suis allée voir des médecins. Je dis, je comprends pas, j'ai mal là, j'ai des tensions, je comprends pas. Madame, vous êtes angoissée. D'accord.
C'était donc ça.
Et donc du coup, oui, effectivement, faut faire attention parce que si moi je fais de la prévention aujourd'hui. Je vous
c'est
le dis.
Très important.
C'est très important. C'est le but.
Donc si vous êtes anxieux, etc., et que ça commence à tirer sur votre corps, là c'est un signal d'alarme.
Ouais, donc faut aller voir un médecin.
Faut aller voir quelqu'un.
Ouais. Non. L'idée de façon par rapport à tout ce qu'on voit par rapport à la santé mentale, c'est dès lors que le corps vous alerte. 9 fois sur 10, c'est que là, vous avez atteint peut-être des limites. Donc, il faut tout de suite aller voir un spécialiste.
C'est ça.
On continue avec le mot trauma. C'est quoi un trauma, Benoît ? Ben, c'est quoi un trauma ?
Pour moi, c'est une expérience ou une expérience négative que tu as vécue et dont tu subis l'impact encore, que de manière physique ou psychique.
Ouais, oui, c'est quasiment ça. C'est une blessure émotionnelle ou physique donc, qui a été causée par des expériences stressantes, choquantes, bouleversantes, souvent quand on est enfant. Et en fait, quand tu dois revivre ce même sentiment, t'es vulnérable et t'es dans une insécurité. Donc non, ça va. Là,
Tout le monde est en forme.
Franchement, on est en forme. Est-ce qu'on en fait un dernier ?
Oui.
Je pense que j'ai bien envie d'en faire un dernier parce que c'est quelque chose qu'on a souvent eu du mal à comprendre. La distinction entre psychologue, psychiatre, thérapeute.
Parce que
je vous ai dit, on essaie de prendre des thématiques où on comprend pas trop qui fait quoi.
Franchement, là, pour le coup, je suis curieux de savoir parce que j'avoue que même moi, j'ai des doutes.
Alors,
je t'écoute.
Pour faire très simple, en fait, un psychologue, il te faut un bac plus 5 en psychologie.
Ok.
J'avoue, là, j'étais chou pour répondre à ma casse.
Vas-y, continue. Tu veux répondre ?
Non, c'est bon, t'inquiète.
Désolée, je t'ai pas vu. Il ne peut pas prescrire de médicaments, donc ce n'est pas un médecin.
D'accord.
Et donc, il va se spécialiser soit en thérapie, en bilan ou en test.
Ok.
Ok. Un psychiatre, lui, c'est un médecin, donc il a fait des études de médecine plus une spécialité. D'accord. Donc, il peut te prescrire des médicaments, okay. par exemple des calmants, mais ce n'est pas forcément ce qui va se faire tout de suite.
Ouais.
Et donc, les spécialités, notamment, ça va être tout ce qui est... ça peut être des troubles mentaux,
ouais.
ça peut être un accompagnement.
D'accord.
Le thérapeute... Ouais. En termes d'études, le thérapeute, il me semble que c'est pas un statut qui est protégé par l'État. Donc, une personne qui n'a pas fait d'études peut être thérapeute. Une personne qui a fait un bac plus 5 en psychologie peut être thérapeute.
Ça me plaît, ça.
Et en fait, c'est là ce qui est un petit peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ouais. de personnes qui te disent « Ah, moi, je suis thérapeute, ouais, etc. » T'as fait des études, coup, non ouais. okay. ok. Donc, il ne peut pas prescrire de médicaments, vu qu'il n'est pas médecin. Ouais. Et ils sont là surtout pour de l'accompagnement.
Okay.
Pour moi, la plus grosse différence, parce que moi, j'ai eu les trois... Mmh. Avec la thérapeute, souvent il va y avoir beaucoup d'exercices.
Mmh.
On va partir sur beaucoup d'exercices, sur de la lecture, etc. Psychologue, ça va être vraiment une discussion. Et psychiatre, ça va être tu parles, la personne elle écoute et elle te redit ce que tu as pu lui dire pour que toi-même tu t'auto-analyses par moment.
Okay.
Mais
elle peut prescrire des médicaments.
T'en as pas oublié un
psychologue.
Ou peut-être que tu l'as inclus dedans.
De quoi ?
Psychanalyste.
Non. Ah oui, je ne l'ai pas mis.
Psychanalyste. Oui, donc, psychanalyste, c'est, donc, ça va être une thérapie
ouais.
longue
ouais.
sur en fait, de l'analyse de votre personne. Donc, en fait, mmh. vous allez parler. En fait, il y a différentes approches mmh. Suivant les écoles, entre guillemets. Et donc, vous allez parler. Et en fait, l'idée, c'est de décortiquer et déconstruire des traumas profonds. Mmh. Donc, on va aller vraiment chercher loin.
Dans l'enfance, souvent.
Dans l'enfance, souvent. Et voilà, c'est un travail qui est assez long. Okay. C'est pas un travail de quelques mois, ça peut être de quelques années.
C'est ça.
Et donc, du coup, oui, il faut faire des études.
Il me semble que c'est, tu fais bac plus 5 psychologie et après
et 3 ans de psychanalyste, où vraiment, ça va y avoir des cas pratiques, etc.
Mais t'es pas médecin.
Voilà, mais ils sont pas médecins, ouais, exactement.
Ouais. Donc, comme ça, vous avez un petit peu la distinction. Je trouvais que c'était assez important. Je vais prendre la parole.
Je t'en prie.
Une fois.
Bah, vas-y.
Je vais pas finir la dernière.
Écoute, il n'y a pas de souci.
Alors, quand on parle de santé mentale, moi, j'ai énormément de choses qui me viennent à l'esprit. Mais je pense qu'il y a deux grosses choses qui vraiment me sautent aux yeux. Il y a ce qui s'est passé depuis le Covid, donc tout ce que le Covid a pu mettre en lumière. Mais aussi, il y a l'aspect de l'éducation. Dans le sens où pour moi, en fait, la santé mentale, c'est forcément très lié à comment est-ce qu'on s'est construit en tant qu'enfant. C'est lié aussi à notre cercle familial et amical. Mmh. Et j'ai l'impression que par moment, on a envie d'exprimer un mal-être et que soit il est effacé, il est mis sur mute, ou sinon il va être dévalorisé parce que en fait, les personnes qui sont autour de nous, les adultes qui sont autour de nous, ils estiment que leur mission première, c'est de la survie. Et que pour eux, la santé mentale, c'est pas de la survie, c'est un plus. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression que justement, par moment, on va exprimer ce mal-être quand on est jeune à plusieurs reprises et on va pas être entendu et écouté. Donc on va nous-mêmes se censurer. Et par moment, malheureusement, on arrive peut-être un petit peu tard. Il n'est jamais trop tard, mais on arrive un petit peu tard dans justement le traitement, tout ça. Parce que, en fait, on n'a pas forcément eu les outils, on n'a pas eu les armes pour pouvoir directement s'adresser à un professionnel de santé. Parce qu'on sait, on ne connaît pas la distinction entre psychiatre, psychanalyste, thérapeute. Parce que c'est aussi un budget, on ne s'en rend pas compte. Mais ça reste des séances assez onéreuses. Comme tout à l'heure le disait Camélia, c'est vrai qu'il y a certains professionnels de la santé, justement, on peut avoir des séances gratuites. Le problème, c'est que souvent, ils sont bookés, donc il faut attendre 1, 2, 3 mois. Pas tous les thérapeutes, psychiatres, psychanalystes sont pour aussi ce format-là. Donc déjà, juste décortiquer tout ça, essayer de savoir vers qui on doit se tourner, je trouve que c'est un effort considérable. Et je regrette justement que ça ne soit pas plus facilité, cet accès-là, juste à l'information. Parce que on commence par chercher et après on comprend où est-ce qu'il faut qu'on traite. Et après, normalement, on essaie de trouver un thérapeute ou une thérapeute qui nous correspond. Mais genre tout ce cheminement-là, moi, je trouve qu'il est souvent invisibilisé. On a l'impression que si tu ne vas pas bien, par exemple, tu t'es cassé une jambe, tu vas chez le médecin et puis voilà. Mais quand ça ne va pas bien dans ta tête, vu que ce n'est pas une maladie visible... c'est déjà compliqué de savoir vers qui se tourner et c'est compliqué de savoir à quel moment il faut aller voir quelqu'un. À quel moment, en fait, ouais, là, vraiment, je me sens vraiment pas bien. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à sortir de tout ça. Et clairement, je trouve que tout ce cheminement-là, il est invisibilisé. Il y a aussi autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même moi, j'ai été suivie depuis mes 16 ans. Parce qu'il y a eu un événement marquant dans ma vie. Et donc, j'ai eu une psychologue de l'école. Ça s'est extrêmement bien passé. Après ça, elle m'a conseillé une psychiatre. Et c'était atroce. C'était vraiment 2 ans de souffrance. Parce que la personne en face de moi, malheureusement, elle ne comprenait pas du tout mon ressenti. Parce que moi, je fais partie d'une minorité sociale. Donc, je suis d'origine maghrébine. Je suis une femme voilée. Et en fait, elle me lisait avec d'autres lunettes. Donc, elle projetait énormément sur moi. Moi, j'avais 16 ans, donc de mes 16 ans à mes 18 ans, c'était un calvaire sans nom. Et je me disais, mais il faut que je persiste parce que si je vais pas bien, elle est la seule à pouvoir m'aider. Ben, en fait, non. Mais vu que je savais pas qu'il y avait d'autres possibilités, que je pouvais trouver un autre chemin, ben, je me suis entêtée là-dedans pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai arrêté. Et j'ai vraiment détesté ça. Et je me rends compte à quel point, vu que ben, c'est pas quelque chose qui est visible, on a du mal à trouver, on va dire, le bon soignant. Et quand ça se passe mal, bah on n'arrive pas à se dire bah en fait là c'est pas normal. Et je pense que c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à se reconnecter à notre corps et à nos émotions et à se dire bah en fait voilà, si je m'écoute, j'aime pas du tout ce qui se passe, donc je vais arrêter. Donc c'est vraiment, je trouve que la santé mentale, c'est un vrai cheminement qui n'est pas forcément simple, parce qu'il y a plein de questionnements. Moi aujourd'hui, j'ai eu une thérapeute il y a quelques temps qui comprend complètement toutes mes conditions, qui comprend toutes mes minorités, enfin toutes les minorités dans lesquelles je me retrouve, et avec qui ça se passe très très bien, parce qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'il n'y a pas de projection sur qui je suis ou sur ce que j'ai pouvoir dire. Mais ouais, j'ai mis 2 ans, ouais, 3 ans en fait, à trouver une personne qui soit apte à m'aider. C'est même pas à m'écouter, c'est vraiment genre à m'aider pour que moi, de mon côté, je puisse faire le travail. Parce que aussi, quand on parle de santé mentale, on a l'impression que c'est simple, on va voir un médecin, un psychiatre ou autre, et lui va résoudre le problème. En fait, non, ça va être à nous de faire ce travail là et il faut que la personne qui soit en face de nous, on puisse lui faire confiance pour justement avancer. Donc pour moi, la santé mentale, c'est quelque chose de très difficile, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, c'était quelque chose de très confus, comme le disait tout à l'heure Camélia. Moi, je me souviens, dans les années 2010, quand on parlait de santé mentale, ah mais ça c'est un truc pour les fous. T'es en mode ok, donc si je vais pas bien, il faut juste que je le dise pas, en fait, parce que on savait pas forcément ce que c'était. On avait aussi peut-être du mal à assumer en fait les émotions qui nous submergeaient. On a peut-être aussi du mal à assumer justement cette charge mentale qu'on n'est pas censé porter au quotidien. Donc pour moi, vraiment, la santé mentale, c'est un espèce de cheminement où tu apprends à être bien avec toi-même et tu apprends surtout à mettre des barrières. Et tu interdis en fait l'accès à certaines personnes, et t'es en mode c'est comme ça et pas autrement. Et bah tout ça, tout ce cheminement là, je trouve qu'on minimise vraiment le travail que ça demande. Et si je suis honnête, surtout issue de personnes qui n'ont pas pu prioriser ça plus tôt. Là où une personne qui a pu dès le plus jeune âge consulter, je dis pas que c'est plus simple pour elle, mais la voie, elle a été un petit peu déblayée. Là où quand de toi-même tu dois faire tes recherches pour comprendre le pourquoi du comment, par moments, je me dis, j'aurais bien voulu être un petit peu plus accompagnée, qu'on me tende la main et qu'on m'explique un petit peu plus pourquoi, comment. Donc voilà. Et c'est vrai que oui, comme le disait tout à l'heure Camille, je trouve que vraiment, Covid, ça nous a permis de mettre des mots sur ce qui se passait. Je pense beaucoup, le confinement, on se rend pas compte, mais c'est là parfois que la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, elle a pu se réveiller. Et c'est là où justement on a pu peut-être avoir la chance de se dire « Ah ben en fait, c'est vraiment pas normal ce que je vis, j'ai besoin d'aide. » Donc voilà pour mon très très gros point.
C'est un très beau point.
Merci, merci. Est-ce que Noé, tu veux reprendre la parole ?
Je mets mon casque.
Let's go.
C'est bon. Écoutez, c'est un thème tellement profond que pour vous dire, j'ai eu grave des remontées d'émotions là pendant que chacun a fait son passage, dans le sens où... je me reconnais un peu en vous tous, que ce soit dans vos arguments, ce que vous avez dit. Donc moi, je vais aborder en tout cas mon argumentaire d'une manière assez atypique. Je vais vous faire vraiment un peu tout le développement, tout ce qui s'est passé dans mon esprit étant jeune et comment ma santé mentale s'est développée. Pour commencer, si moi, personnellement, je devais donner une définition de la santé mentale, même si on a une qui est très bien, c'est, je vois ça un peu comme un muscle. Vous voyez, c'est comme un muscle qu'on travaille. Vous voyez, tous les jours, on travaille notre santé pour être meilleur, pour commencer à mieux comprendre, à mieux digérer. Donc, c'est plein de choses. Et ça commence dès l'enfance, malheureusement. Donc, au début, on ne sait pas que c'est un muscle. On prend juste, en fait, tout dans la figure. Et moi, en tout cas, l'un des premiers défis que j'ai eu, donc hormis l'aspect de l'éducation, etc., c'est d'abord l'aspect physique. C'était là ma première épreuve de santé mentale. C'est simplement en fait d'être... J'ai de la chance d'avoir été bien entouré. Donc, comme a dit Benoît, il y a l'environnement qui joue. Hein. On est dans un environnement où on est en Île-de-France, 93. On se clash beaucoup. On rigole beaucoup pour pouvoir justement, entre guillemets, évacuer ce qu'on vit à la maison ou ce qu'on vit de manière générale. Moi, par exemple, l'un des tout premiers traumas, ça a été physiquement, en fait, le fait que certains de mes amis, même si au final, c'est des gens avec qui je suis très proche, hein, c'est pas n'importe qui le faisait, soit mes amis comme ma famille, il y a eu vraiment, tout d'abord, en fait, les premières critiques physiques, puis après, des critiques physiques qui se font à répétition, qui vont créer les premiers traumas où tu te dis, mais wesh, en fait, si on me dit ça tout le temps, je veux commencer à vouloir me refaire telle partie de mon corps parce qu'en fait, on la critique trop et je ne peux plus l'assumer. Donc ça, en fait, ça a été les premiers traumas. Et là, en fait, on va dire, si vous voulez, c'est un muscle, comme je vous ai dit. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on commence à travailler. Et moi, de manière générale, je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Je me pose des questions par rapport à tout. Mais à un moment, je ne me pose pas de questions. En fait, il faut, si vous voulez, un événement pour que la question apparaisse dans mon esprit. C'est-à-dire qu'au final... Déjà, je grandis en me disant, ok, bon, moi, physiquement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, faire des blagues et tout. Mais de manière générale, je n'aimais pas justement clasher les gens physiquement parce que je me disais, ouais, non, je pense que cette personne, elle va peut-être mal le prendre, peut-être qu'elle va rigoler sur le coup. Mais comme moi, peut-être, chez lui, quand il sera dans son lit, il ne va pas rigoler en fait. Ça va peut-être le mettre dans le bad et tout. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, il y a cet aspect physique, cet aspect où vraiment, on a du mal à pouvoir. Entre guillemets, à pouvoir se sentir bien, en fait, dans notre corps, tu vois. Donc, c'est l'une des choses qui... En fait, tu commences avec ça, en fait. Ouais. C'est terrible, tu vois. La deuxième chose, ma famille, je les aime. J'aime ma famille, hein, pour vous dire, dans toutes les familles, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille, il y a des hauts et des bas. Mais au final, c'est ce qui nous construit. Donc, tous nos traumas deviennent... avec le temps, et je vous rassure, nos auditeurs, ça devient une force. Du moins, si on l'a traité. Faut essayer de créer cette chose-là, que tout ce que vous avez vécu, que ça soit mauvais, que ça soit bon, d'en faire une leçon et quelque chose dont vous pouvez vous servir, servir comme tremplin.
C'est ça,
essayer de se détacher, essayer de ne de pas se laisser submerger par toutes les ondes négatives qu'on peut recevoir de manière générale dans la vie. Donc, il y a la famille. Inutile de vous expliquer les embrouilles qu'on peut avoir entre frères et sœurs, si vous en avez, avec nos parents. Je posais des mots aussi qui sont forts, mais on peut parler aussi de certains drames familiales qu'on peut vivre. Donc des embrouilles dans toute la famille qui peuvent éclater un jour, des coups, des pleurs, du sang. Par moments, c'est des choses qui peuvent être très traumatisantes à vivre et qu'on peut normaliser, parce que dans la famille, on peut le normaliser. Ça,
oui.
Des fois, après,
dans le microcosme familial, c'est normal.
Voilà, ça, on peut en parler des années plus tard, etc. Mais ça reste des choses qui par moment, dans les moments où ce que nous sommes loin ou dans les moments où ce que une autre personne va nous raconter, lui, par la manière dont il a vécu, tu vas te dire, ah non, mais moi, j'ai vécu ça. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a vécu ça, en fait.
Et moi, c'est pas normal.
Et c'est pas normal, tu vois. Donc, si vous voulez, il y a la famille qui va beaucoup jouer, qui va être aussi ce facteur en fait, de santé mentale. Puis, on grandit, on apprend. Donc, il y a l'école et les réseaux. Donc là, on rentre autour de 15 ans, 16 ans. Ouais. Malheureusement, nous, on a été au cœur donc, de ce qui est une nouvelle sorte de dépression. Mais les réseaux sociaux, c'est arrivé. Nous, on était au cœur de tout ça. Donc, le cyberharcèlement, parce qu'il n'existait pas avant, c'est aussi quelque chose qui a mis... pour avoir vécu une sorte de cyberharcèlement, je peux vous dire en fait ce que ça met dans le mal, parce que quelque part, en fait, ça te suit. Et nous, notre divertissement, il n'y avait pas que la télé, il y avait notre téléphone. Et maintenant, le téléphone est devenu le divertissement de tout le monde quasiment. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si même dans, entre guillemets, la bulle que tu as créée, tu
positive,
en fait, entre guillemets, il Il y a des gens qui te parlent, qui vont te critiquer, qui vont t'insulter, qui vont te croiser, qui vont dire j'ai vu tel truc, j'ai vu ça de toi, j'ai vu ci. C'est...
Je me permets d'intervenir, excuse-moi. C'est que j'ai écouté récemment le témoignage qui est passé, je crois, sur les réseaux ou sur la télé. C'était d'un ancien harcelé qui disait « Je suis content d'avoir été harcelé à mon époque parce que à mon époque, quand ça je rentrais chez moi, il n'y avait pas le téléphone.
C'est ça.
Ça s'arrêtait, ça s'arrêtait aux portes de l'école.
Exactement.
Aujourd'hui, ça, c'est très compliqué.
Donc, je pense, de manière générale, une très grosse pensée à ceux qui ont déjà subi ce genre d'épreuve. Mmh. Et là, depuis tout à l'heure, je ne vous parle que du négatif, mais il y a énormément de choses positives aussi qui se parlent dans notre santé mentale. Le fait d'avoir un entourage, le fait d'avoir des gens à qui parler, que ça soit... même si, en fait, on en parle à des personnes... entre guillemets, qui sont nos amis, qui vont avoir des jugements et qui vont des fois maladroits dans la manière dont ils veulent nous aider. Parce qu'il y en a qui s'improvisent psy, hein, dans nos amis,
beaucoup,
on en a
beaucoup,
tous un qui va dire « Ouais, non, mais tu devrais faire ça, si, ça, 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 ça. »
Regarder des vidéos.
Exactement. Mais néanmoins, le fait juste de pouvoir parler, en réalité, est une chance. Et c'est ce que je recommande à tout le monde. Et moi, c'est ce qui a permis de faire, en fait, mon propre développement. C'est de parler aux autres de mes problèmes.
D'extérioriser.
Et de manière générale, même si... Et c'est ce qui m'est souvent arrivé dans ma vie, les gens ne me comprenaient pas. Et ça, ça a créé aussi un autre traumatisme. C'est de me dire, ça se trouve, en vrai, je suis grave chelou et que je suis dans ma matrice et que personne ne peut rentrer. Et ça, tu vois, ce truc-là de me dire, ah, oh, je suis très différent et en fait, lui, il ne va pas comprendre ce que je dis parce que lui, il ne va pas avoir vécu ça. Il va un peu comprendre, mais il ne va pas comprendre là où je vais encore, on va dire, je vais aller dans un endroit tellement profond par moment que je me dis, il n'y a que moi qui connais cette profondeur, tu vois. Et au fur et à mesure... On est dans ce développement-là, on arrive à peu près dans 18-19 ans, donc on a le premier taf. Et on est dans cet état d'esprit-là, où on commence à se poser des questions, pas comprises et tout et tout. Et d'ailleurs, je mets aussi du coup une étape qui peut faire partie, en tout cas, des très gros traumas qu'on a, c'est le décès d'un proche. Ça, ça peut totalement chambouler la manière dont on pense aussi. La mort, de manière générale, est quelque chose qui...
Ça dépend, je pense, comment est-ce qu'on te l'a...
Ça, en fait, ça dépend comment tu l'expliques et comment ta famille, tes proches le vivent, tu vois. Moi, ayant grandi dans une famille africaine, bref, on passe.
On en reviendra.
Mais donc, il y a ça. Et donc, on arrive à ce qui est pour moi l'un des très gros facteurs de dépression. D'une part, déjà, dès qu'on arrive à 18 ans, effectivement, pour ceux qui ont fait les études jusqu'au bac, après le bac, t'es solo. T'es solo, t'es livré à toi-même. C'est toi et tes envies, c'est toi et ce que tu veux faire de ta vie. Il y a toujours les parents qui vont essayer de t'encadrer, mais au final, tu commences vraiment à être solo. Et donc, il y a les premiers endroits où on va aller, le premier taf.
Ouais.
Et moi, mon premier taf, c'était McDo.
Ça, c'est très dur. Ça, c'est un trauma.
Et je peux vous dire que...
C'est pas le choix, je disais.
J'ai rencontré des personnes incroyables, de manière générale. Franchement, des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, qui est paradoxal, c'est que les gens qui nous apprennent le plus de choses, c'est les gens les plus traumatisés.
Ouais.
Et c'est ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte vraiment plus tard. Donc...
Excuse-moi, traumatisé ou traumatisant ?
T'es chaud, toi. Honnêtement, non, juste traumatisé parce que pas traumatisant parce qu'en vrai, j'ai rencontré. Bah, regardez, je vais dire un truc tout bête, mais l'un des premiers dialogues que j'ai eu avec une personne de McDo, c'était une de mes collègues. Donc elle m'explique là, tu sais, c'était la manager. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et à un moment, je lui demande, t'as fait quoi comme études pour être manager McDo ? Par curiosité. Et là, elle me dit, j'ai fait du droit pendant 5 ans. Et je me suis retrouvé là parce que du coup, j'ai pas réussi à trouver d'emploi dans le droit.
Oh punaise.
Et tu sais, elle me dit ça comme ça et je me dis, ok.
Ça sentait mental.
Donc en fait, donc elle est dans un métier, tu sais, comme le McDo qui est speed et tout, qui n'a aucun rapport avec ce qu'elle a voulu faire de sa vie.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ok, santé mentale, en fait, tu te retrouves pas forcément dans le travail, dans le métier ou ce que tu veux être, tu vois. Donc en fait, t'es entouré autour de toi de personnes. Qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en fait dans une sorte de, déjà entre guillemets, de dépression. Et inutile de vous dire que la dépression, c'est quelque chose de très, très, très contaminant. En fait, on vous le donne et on vous le donne et on vous le laisse comme ça. Donc, à commencer par les parents, à commencer par vos amis par moment, ils vont vous dire plein de choses et savoir avoir des répercussions, que ça soit positif comme négatif et que ça soit après dans le travail.
Ouais, parce que tu passes 8 heures avec eux. Hein.
C'est ça. Patron, collègue et j'en passe. Il y a énormément de bonnes choses dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a des métiers où on peut se retrouver, ou même bien des travails, on va dire, comme vendeur, caissier, etc., les métiers, on va dire, un peu de base, ça peut être très bien. J'ai vécu...
Mais on peut le dire.
Et mon point positif a été, par exemple, de rencontrer Wafa, qui est à côté
c'est
de
incroyable.
Moi. On s'est rencontrés, nous, à H&M, et même si on était... que ça soit en termes de développement et de santé mentale dans un
chaotique.
Truc dans un truc chaotique. Et comme je vous ai dit, on était dans toutes ces questions là, que ça soit physique, que ça soit la famille, et après je vais vous parler du dernier qui est pour moi le plus magnifique, mais que ça soit tout ça, on s'est quand même retrouvés ensemble dans le même bateau
et on s'est épaulé.
Et en fait, si vous voulez, c'est tout bête, mais on a juste tous voulu se faciliter le travail, c'est-à-dire être dans la bonne humeur, c'est une base. Être souriant avec une personne, peu importe ce que tu vis dans ta vie, de pouvoir parler avec de l'entrain, c'est une base, ça fait du bien, tu vois.
C'est pour ça qu'on a pu tenir.
C'est ça en fait, c'est ça qui nous a fait tenir. Donc, dans certains métiers, vous allez pouvoir peut-être retrouver que ça soit quelqu'un comme moi, quelqu'un comme Wafa, ou comme quelqu'un Mélia, comme Camille, comme Benoît, comme tout le monde sur ce plateau-là.
Ouais.
Et là, notre grande force, c'est de pouvoir justement communiquer et de pouvoir s'aimer. Et là, maintenant, j'en viens à mon point, au point...
Fallait nous laisser savourer le s'aimer.
Non, mais...
La prochaine fois, tu marques la pause, on fait un silence collectif.
Oui. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que moi, du coup, étant un petit, voilà, quand j'étais jeune, j'avais besoin d'amour. Mes parents ont fait de leur maximum, mes frères et sœurs, mes amis. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment à la recherche de l'amour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui rend vraiment les gens heureux? Qu'est-ce qui font que les gens s'aiment et tout? Et puis, ma première conclusion... ça a été l'argent. Je me suis dit, mais en fait, quand les gens ont de l'argent, ils sont contents. Que je le veuille ou non, enfin, tu sais, de dire à maman, j'ai eu 20 sur 20, et de dire à maman, tiens, maman, 200 euros, elle va pas avoir la même réaction. Elle va pas avoir la même réaction. Même si, quelque part, elle va être contente pour moi parce que j'ai accompli quelque chose de manière personnelle, de lui donner directement de l'argent, ça va être une autre joie.
Mm-hmm.
Et malheureusement, beaucoup de gens, et même encore aujourd'hui, et je pense que ce sera éternel, on associe donc le fait d'être en bonne santé mentale. Associé à l'argent en fait, c'est-à-dire que on peut, et certaines personnes vont faire ça durant la majorité de leur vie, éviter de parler de tous leurs traumas parce qu'ils ont de l'argent, et c'est-à-dire que le fait qu'ils vont avoir de l'argent, ils vont penser à autre chose, tu vois.
J'ai pas envie de nuancer ton propos,
mais je vais
apporter une autre information.
Vas-y.
En fait, je pense que c'est effectivement le fait d'avoir de l'argent, ça fait énormément de bien. Mm-hmm. C'est indéniable.
Mm-hmm.
Mais il y a des fois, parfois, t'as pas d'argent, mais t'es aussi bien. Mais c'est parce que t'as pas d'argent à un endroit où ne pas avoir d'argent, ce n'est pas.
Exactement.
Super
et c'est ça, en fait. J'allais y venir parce que, donc, mais bien sûr que l'argent ne fait pas le bonheur.
Mais ça peut.
Mais
il contribue. Mais
il contribue. Mais après, ça dépend ce que tu veux faire de ton argent et pourquoi tu veux de l'argent. En fait, ça dépend de l'objectif qui est derrière.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que avoir de l'argent pour juste avoir de l'argent, oui, c'est très bien. Tu vas être heureux.
Il y a beaucoup de personnes qui sont dépressifs. Hein,
mais en fait, en vrai, c'est éphémère. Et il y a des personnes qui vont suicider en étant millionnaire. Il y a des personnes qui vont être dans des états chaotiques en ayant beaucoup d'argent. Parce que finalement, le plus important et ce qui est plus important que l'argent, ça reste l'amour. Majoritairement, c'est déjà le fait de s'aimer soi-même et après de pouvoir partager ta vie, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec ta copine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été concentré sur l'argent en me disant il me faut de l'argent. Je sais que l'argent va rendre les gens autour de moi heureux.
Ouais.
Puis à un moment, je me suis dit mais non, en fait, il n'y a pas que ça, en fait.
Ouais.
C'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de me concentrer sur l'argent et peut-être ignorer certaines personnes, de pouvoir juste parler avec eux, que ça soit dans la soirée, dans la journée.
Mais
en fait, juste le temps, exactement.
Mais tu sais qu'il y a Jim Carrey, je ne sais plus dans quel film, justement, il faisait un très beau speech et il expliquait qu'il souhaitait que les gens réalisent leurs rêves pour comprendre qu'ils ne seront pas plus heureux quand ils auront réalisé leurs rêves.
Exactement. En fait, je pense que, et moi, ça a été ça ma finalité, c'est que je cherche plus à déjà essayer de rendre heureux les gens autour de moi. Et j'ai compris que moi, tu vois, pour le coup, ma santé mentale, elle dépend des autres. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai besoin que autour de moi, les gens soient bien pour que je sois bien.
Mais
tu vois,
t'as vu, je me permets de te dire un truc. Hein. Parce que justement, il n'y a pas longtemps, j'étais ma thérapeute. Et en fait, ça, c'est un cercle vicieux parce que tu ne peux pas réparer la jambe de quelqu'un qui vient de se péter la jambe.
Totalement.
Et donc, toi, tu ne peux pas agir sur leur santé mentale.
Exactement.
Et si ton bonheur dépend de la leur, tu ne pourras jamais être heureux parce que, tu sais, c'est quoi? C'est le syndrome de Dieu.
Alors, figure-toi.
Oui, non,
mais c'est imprudent ce que tu dis parce que ça ne s'étend pas. En fait, si tu veux, je sais très bien que dans la vie, il y a des gens, malheureusement, qui ont des problèmes bien plus profonds qu'on ne le pense. Et ce n'est pas juste en ayant une conversation pendant une heure le soir dans une voiture ou au téléphone que ça va résoudre ces problèmes. Loin de là. Par moment, en fait, il y a un accompagnement à avoir. Il y a plusieurs dialogues. Et il y a
des professionnels.
Il y a des professionnels qui sont là pour aider. Mais moi, je pense que, en tout cas, dans l'amour et la manière dont je perçois l'amour, les gens qui sont autour de moi, c'est des gens que j'aime profondément et sincèrement. Mm-hmm. Et de manière générale, en fait, c'est au-delà de vouloir faciliter la vie, c'est que ce qui guérit la santé mentale, c'est mm-hmm. l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui nous rend assez audacieux. C'est-à-dire que je sais qu'une personne va être très très mal, mais le simple fait de pouvoir être à côté d'elle, de pas simplement... pas forcément parler, ouais. juste d'être à côté d'elle.
Ouais, la soutenir.
Ça va lui faire du bien. Ouais, et même si cette personne-là va chez le psy ou ce que tu veux, ça va l'aider, tu vois. Et même si moi...
Il est là, le gap. Pas forcément. Par exemple, quand t'es en dépression, et il y a pas longtemps, justement, je regardais un podcast sur ça, la dépression, en fait, c'est une maladie sévère. Et tu peux très bien faire rire la personne, l'emmener au restaurant, l'emmener bien en sûr. Voyage. Et en fait, elle est toujours en dépression. Et dès lors que toi, tu te dis, bah, si je suis là pour elle, je vais pouvoir l'aider... Non, moi je fais mon maximum et c'est à elle de s'aider elle-même pour sortir de là.
Mais alors là, mais t'as totalement raison. Justement,
il faut pas que tu développes le syndrome du sauveur.
T'as totalement raison.
Parce que moi, pendant très longtemps, je l'ai eu. Je me disais, j'ai pas été aidée, donc je vais aider les autres. Mais le problème, c'est que
tu t'aides pas toi. On finit par s'oublier, mais ça c'est normal. Mais bien sûr. Mais t'as fait ça avec ton doigt comme ça. Personne nous voit, mais...
Continue.
Mais en tout cas, pour finir... Effectivement, il ne faut pas avoir ce syndrome du sauveur, on ne peut pas aider tout le monde. Mm-hmm. Et croyez-moi que je l'ai bien vite appris dans ma vie.
Ouais.
Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, en tout cas l'entourage qu'on peut avoir, ça peut être notre entourage final, entre guillemets.
Oui, oui.
Et justement, c'est avec ces gens-là dont on a un historique par moment ou des fois un véritable coup de foudre pour qui et pourquoi on peut donner de notre personne. Parce qu'au final, oui, il y a des psys, on a énormément d'aide aujourd'hui. Mais notre plus grande chance, c'est vraiment de pouvoir avoir un entourage, d'avoir des gens autour de nous depuis très longtemps, ou des fois même que ce soit des amis de semaines, mais de pouvoir sentir qu'on peut se confier à une personne, parler, ça nous permet en fait tout simplement de nous développer nous-mêmes. Donc n'hésitez pas à parler, tout simplement. Même si vous n'arrivez pas à dire de mots sur vos traumas, de pouvoir les communiquer, que ce soit même à une personne inconnue. Et c'est ça qui est pire. Et c'est que des fois, les gens qui...
Et
c'est eux qui vont t'aider. Faites-le. Donc, n'hésitez pas à parler et soyez. Ne soyez pas, on va dire, renfermés par le monde dans lequel on vit.
On souffre tous. On a tous des masques.
Et par moments, c'est. Comme il a dit Benoît, en fait, ça peut être juste l'environnement. Par exemple, des fois, ça peut être une ville.
Ouais.
Des fois, ça peut être une commune. Des fois, ça peut être un pays. D'accord, les gars? Donc, ça peut être aussi un continent aussi. Vous voyez?
Voyager.
Voyager, peut-être que vous n'êtes pas fait pour la société en France, mais peut-être. Une autre dans un autre pays.
Il y a un petit message subliminal.
Je peux faire long feu ici.
Je veux juste réagir sur le voyager. C'est vrai que tout le monde ne peut pas voyager.
Exactement.
Mais parfois, une petite balade en forêt, les amis. Une petite balade dans un petit coin.
D'extérieur, ça peut faire du bien.
Exactement.
Camille, on te laisse le mot de la fin, je pense.
Ouais.
Si vous voulez. Non, il y a beaucoup de très beaux témoignages. Donc, conclure avec... avec le mien. Moi, je vais essayer d'être brève parce que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de très beaux témoignages. Moi, j'ai du mal à consulter, honnêtement.
Mm-hmm.
Ouais. Je consulte maintenant depuis 2-3 ans. J'aurais dû beaucoup plus tôt. J'ai un événement qui, comme beaucoup de gens, qui te crée du trauma quand t'es ado. Sauf que quand t'es ado, expliquer à tes parents qu'il faut que tu consultes parce que ça te crée des angoisses, des anxiétés et des down pour mm-hmm. Je peux pas me permettre de dire dépression parce que c'est un diagnostic.
Mm-hmm.
En tout cas des phases dépressives c'est compliqué de leur dire peut-être que je vais voir un psy.
Mm-hmm.
Donc en fait tu développes d'autres du coup tu développes ton anxiété, tes angoisses. J'ai développé de l'hypocondrie.
Ouais.
Aucun rapport, mais j'ai développé de l'hypocondrie quand même. C'est sorti de nulle part. C'est un truc qui est sorti en plus.
Ouais.
Bon, depuis le Covid, étonnamment, je ne suis plus hypochondriaque.
Incroyable.
Merci le Covid. mais après, oui, en fait, comment je me suis dit, il faut vraiment que je consulte, c'est... en fait, mes anxiétés sont devenues des angoisses.
Mm-hmm.
Après, tu as l'association des deux.
Ouais.
Donc, tu as l'anxiété, donc c'est sur le long, pas fort. Et après, tu as un pic d'angoisse, donc du coup, c'est très fort. Et je faisais beaucoup d'insomnie. Là, j'ai fait ok, sauf que ça devenait invivable pour moi.
Mm-hmm.
Ça devenait inviable aussi pour certaines de mes amies très proches.
Mmh.
Parce que quand tu es très anxieux, très angoissé, ça peut se transmettre aussi.
Mmh.
Dieu merci, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
C'est l'essentiel.
Ouais. Après, malgré tout, il y a comme des événements. Là, par exemple, j'ai eu un décès récemment. On va parler clairement. Je disais ma grand-mère, qui était un peu ma psy avant que je le consulte. Quand je lui ai dit, mamie, je vais voir un psy, elle m'a fait, bah pourquoi ? Je dis, bah parce qu'il faut que je consulte.
Ouais.
Elle fait, ouais, mais moi je suis là. Je dis, oui, je sais que t'es
c'est
là.
Trop mignon.
Mais c'est pas pareil. Genre, t'es pas médecin. Tu vois, c'est, là, c'est un, après, faut pareil. C'est une ancienne génération. Donc, faut expliquer le développement, le pourquoi. Après, elle fait, ah ouais, je comprends. Mais tu peux quand même me parler. Hein. Je dis, oui, t'inquiète, je te parle quand même.
C'est trop
du coup, il y a ça. Mais derrière, au final, ça te fait aussi. T'as des événements aussi. T'as le côté où ça te fait très négatif, comme le premier événement où je disais avant. Et le décès de ma grand-mère, où, à contrario, alors ouais, t'es mal sur le coup. Alors ouais, j'ai perdu peut-être mon binôme et tout, mais tu te dis, mais au final, ma grand-mère, elle aurait pas voulu que je sois mal. Elle m'aurait dit quoi ? Elle m'aurait dit, profite de la vie et tout. Et là, qu'est-ce que je fais ? Bah, je me suis dit, écoute, profite. Tu te prends même pas la tête. La personne veut te parler, elle te parle, c'est bien, tu t'en fous. Tu veux faire un truc, tu tentes. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, au moins t'aurais essayé. Plus de regrets, plus de culpabilité, plus rien. Faut vivre, faut penser à soi, penser à vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrique, mais pensez à vous. Pensez à votre santé mentale. Les gens, ils s'en foutent de la vôtre. Pensez à la vôtre.
Oui, il faut protéger la sienne.
Voilà, protégez-vous. Franchement, honnêtement, c'est le maître mot que je dirais. Je pense que c'est sur ça que je finirais. Pensez à vous, protégez-vous. Protégez votre santé mentale. Vous dépendez pas des gens. Les gens ne dépendent pas de vous. Ils attendent rien de vous. Peut-être des fois, ils attendent un petit peu trop de vous.
C'est ça.
Mais vous, à contrario, quand vous avez besoin, il n'y a personne pour vous. Consultez si vous avez besoin. C'est pas une honte. Vous n'êtes pas fou. Vous avez juste besoin d'être suivi des fois et ça fait du bien. Et...
C'est ça.
Et des fois, c'est peut-être que sur un court terme. Hein.
Oui.
Protéger. Moi, honnêtement, c'est vraiment comme ça que je vais conclure. Vraiment, protéger votre santé mentale.
C'est important. Franchement, je trouve qu'on a, on a pu bien résumer pendant ces 1h30 à vos côtés. J'ai bien envie de vous remercier. Merci beaucoup à toi, Camélia, pour s'être autant confiée à nous. Merci à toi, Camille, pour tes très beaux conseils. Merci à toi, Benoît, d'avoir éclairé notre lanterne sur certains points qu'on n'avait pas en tête. Merci à mon binôme Noé d'avoir pris le temps de faire avec moi cette très belle émission. Prenez soin de vous, comme l'a dit Camille.
Et merci à toi, Wafa.
Incroyable. Prenez soin de vous, faites attention à vous, la santé c'est important.
Regardez un bon film aussi par moment.
Regardez un bon film, il y a plein de choses, que ça soit la psychologie. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la spiritualité, mais la spiritualité aussi peut vous aider. Mais ce sera peut-être pour une partie 2.
Vous connaissez maintenant la rengaine avec Noé, c'est partie 2. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Si vous avez besoin, il y a plein de numéros que je vais mettre en descriptif. Et n'hésitez pas aussi
à nous contacter direct. On est là, nous aussi, on peut faire un truc.
Nous, on se retrouve sur Instagram et on se dit à dans 2 semaines.
Peace.
Peace, la famille.
C'était mieux avant, on me le dit souvent. Mes souvenirs sont doux, je les chéris tant. Mais l'avenir aussi est bien trop tentant. Faut que tout me réussisse. Get it. So the way it waffa, let's get it. So the way it waffa, let's get it. Mon Paris FM.